Gameblogueuses, gameblogueurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Avec moi aujourd'hui, Johnny One.
Salut.
Julo.
Hello.
Et Trazom.
Salut à tous, bonjour.
Vous
merci.
Aurez compris, évidemment, vu la qualité des intervenants, que ce ne sera pas un podcast philosophique, mais un podcast d'actualité.
Cette fois, vous allez te permettre.
Il fallait que je sois désagréable une fois, au moins cette année.
Nous allons traiter un podcast des bourrins, c'est ça?
Ouais, exactement. D'accord. Beaucoup plus bourrin et beaucoup plus bas du front, même j'ai envie de dire, en te regardant, puisque nous allons traiter surtout d'actualité de jeux qui sont sorti cette semaine
et d'ailleurs, juste après le podcast on te cassera la gueule normalement
vous essaierez de me casser la gueule
face.
Vous n'êtes pas sûr d'y arriver. On va passer au sommaire immédiatement. Alors pour cette semaine nous avons 4 thèmes. Le premier ce sera Dead or Alive Extreme 3 Fortune sur PS4 que Johnny One a testé. Est-ce que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de volleyball ou est-ce que c'est vraiment
que
le
des gonzesses à poil?
Voilà, que des non, elles sont pas à poil, elles sont dans des tenues vraiment pire que si t'étais
ouais,
à poil.
Comme on disait dans Wayne's World, à moitié à poil.
Ouais, à moitié comme l'Indien.
Comme l'Indien.
L'Indien voilà. Zarb.
L'Indien Zarb à moitié à poil.
Exactement. Nous parlerons ensuite de Trackmania Turbo,
qui sort
sur PS4, PC et Xbox One et que Julo a rincé de A à Z,
bien
sauf qu'il y avait Poufy devant lui, donc du coup il est un peu dégoûté.
De A à W,
je vous raconterai.
Nous parlerons aussi de Dirt Rally, qui vient d'arriver sur console et en version physique aussi sur PC, qui était sorti officiellement le 7 décembre dernier après une séquence d'Early Access assez longue. Est-ce qu'il fait l'unanimité? Trace va nous répondre. Et nous finirons avec peut-être le gros blockbuster de ce début d'année. En attendant Uncharted, en tout
cas, on se garde le meilleur pour la fin.
C'est Quantum Break, évidemment, un jeu qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps à cause d'une histoire de résolution. Mais est-ce que c'est pas un petit peu un débat
depuis d'ailleurs
à la noix, exactement, ou à la noix?
J'attends, mec.
Voilà. Est-ce que c'est pas un peu ça? Bon, on verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, forcément,
question philosophique.
Format du podcast oblige. Eh bien, nous devons avant tout, avant de passer à chacun de ces thèmes, à commencer par Dead or Alive, eh bien nous devons nous poser les questions de savoir ce qui a winné et ce qui a failli. Et là, on va d'abord winner, évidemment, mon petit Julo.
Et oui, alors le win de la semaine, il revient à Final Fantasy XV. Alors,
pourquoi?
Évidemment, on va pas lui laisser que cette case. On attend le retour de Julien, qui était à Los Angeles pour assister donc à la conférence Uncovered.
Uncovered.
Okay. Et qui va nous en parler plus précisément donc la semaine prochaine. Revenez la semaine prochaine pour avoir une grosse dose de Final Fantasy XV. Mais en attendant, on l'a déjà mis dans les winners de la semaine parce que c'est vraiment ça devait être le temps fort et ça a été le temps fort.
Mais
ça
en quoi d'ailleurs?
Ça nous a pas déçu pour un sou. Alors d'abord, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire une date de sortie. Dix ans après
30 septembre 2016
voilà, qui va sortir le 30 septembre 2016 10 ans après son annonce après avoir été remanié
il a changé de nom 40 fois
voilà, il a changé de nom pas 40 fois mais il est passé de Versus 13 à 15 et alors on a pu découvrir pas mal de nouveautés sur le jeu. Alors il va y avoir un nouveau film donc ça va s'appeler
Kingsglaive
et ça va en fait traiter de toute l'histoire qui se passe au moment du jeu mais dans le royaume de Noctis avec son père.
D'accord.
Donc ça sera une histoire un peu parallèle à l'histoire du jeu
et c'est peut-être pas à la fin de chaque chapitre comme un autre jeu qui vient de sortir
sur
Xbox One et PC.
Non. Donc un vrai film en image de synthèse, c'est marrant parce que effectivement c'est ça qui avait un peu coûté cher à Square Enix
à l'époque de Sakaguchi. Depuis il y a eu Advent Children,
Sakaguchi a été viré un peu suite aux créatures de l'esprit qui avait fait un bide et là Sakaguchi était présent sur scène au début de la conférence.
Ah, moi j'étais pas là, j'étais dans un autre pays à ce moment-là.
C'était un moment hyper touchant parce que il est venu en tant que père de Final Fantasy réconcilié avec Square Enix, dire que ce Final Fantasy allait dans la bonne direction, que son enfant avait choisi le bon chemin, qu'il retournait à ses racines. C'était un moment assez touchant. Vous avez une news sur Gameblog où on a extrait ce passage en vidéo. Il y a aussi une série animée qui a été annoncée qui s'appelle Brotherhood Final Fantasy XV et qui est diffusée sur YouTube. Le premier épisode est d'ores et déjà disponible sur Gameblog.
Mais il y avait une autre grosse annonce qui s'est faite immédiatement aussi au moment où ils ont présenté la date de sortie. Il y a une démo aussi qui arrive immédiatement.
Voilà la démo dont on vous reparlera aussi plus en détail la semaine prochaine, bien que vous ayez pu tous y jouer déjà parce qu'elle a été disponible juste après la conférence. Bref, le win, c'est pour Final Fantasy XV et son œuvre globale cette semaine, c'est-à-dire la date de sortie, toutes les annonces qui ont été faites et cette conférence Uncovered.
Elle était bien en plus cette conférence.
Qui était vraiment pas mal. Ouais, vraiment pas mal du tout.
Donc en gros, enfin Final Fantasy XV, on en
voilà, là, il y avait. Enfin, franchement, c'est un sans faute ce qui s'est passé cette semaine. Et comme je vous le disais, on en reparle avec Julien qui était là-bas la semaine prochaine.
On est obligé d'en reparler, ça c'est évident. Mais avant de ça, on va être obligé de passer du côté du fail. Un fail.
Et là, c'est pas très beau.
Bah non, franchement, c'est même moche.
C'est moche. Mmh.
C'est même chum.
C'est le cas de dire
pour parler comme un jeune.
Exactement. Alors, le fail de la semaine, évidemment, il est attribué à Street Fighter 5 et surtout les costumes tout pourris. Et le coupe de merde de Ken.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Ken? Explique-moi. Bon, c'est moi qui ai fait la news. Hein,
bah, déjà, il n'était pas gâté dans la version de base. Ken,
voilà. Moi, déjà, de base, avec ses cheveux un peu longs, tout ça. Bon, on va dire que ça allait quand même.
Mais regardez ce qu'il est devenu. Non, mais regardez-moi
mais
ça.
Mais surtout, regardez, vous le voyez à l'écran pour ceux qui peuvent voir la vidéo.
C'est la fin de l'adolescence, on se coupe les cheveux.
Ouais, mais là il a un moche
bobol, des vêtements pourris.
Non, mais c'est pas la gueule de Ken. Il a une coupe plaquée arrière.
Il a un petit mulet.
Enfin, bref, en Fernando Torres, quoi.
C'est horrible quand tu vois.
Bolleur allemand des années 90.
Voilà. Oh, c'est horrible quand tu vois Ryu qui lui est beau gosse avec sa barbe.
Ah bah Ryu il a vu Johnny Wan un jour, il a fait oh là, faut pas se pousser la barbe donc.
Exactement.
Ah, c'est vrai que c'est Ryu qui a récupéré toute la classe et.
Ah non, mais Ryu et tout, c'est mieux.
Et Ken qui se retrouve en clochard quoi.
Le hot Ryu est quelque chose qui a fait le tour du web. Tout le monde est d'accord pour dire que Ryu avec une barbe et torse nu c'est top du top.
C'est un fail léger on va dire, mais quand même. Pour tous ceux qui jouent avec Ken d'habitude, et on est nombreux, je dis on, parce que moi je joue toujours avec Ken.
Moi ouais, c'est plus Ryu, mais bon, c'est vrai que.
Voir que Ken, mon perso il a plus du tout la classe, ça fait chier quoi.
Oh, c'est même pas qu'il a plus du tout la classe, ça, c'est un clodo, quoi.
T'as même plus envie de le choisir en fait, je crois que je préfère Blanca.
Mais bon, ils se rattraperont peut-être un jour à lui faire un vrai bon costume.
Ou pas.
À ce brave Ken, malheureusement. Capcom, si vous nous regardez, n'hésitez pas.
Changez tout ça vite, un DLC à 40€ et.
Bon, on va peut-être pas aller jusque-là non plus. En tout cas, c'était le fail de la semaine. Et maintenant, on va passer enfin au premier thème de ce podcast. Un thème estival, un thème sexy, un thème plein de.
Enlève-moi mon maillot de bain. S'il te plaît, Johnny Wan, est-ce que tu peux me déshabiller?
C'est ce qu'elle dit d'ailleurs sur le fichier audio. On va parler de Dead or Alive Extreme 3, alors dans sa version Fortune, qui est sortie sur PS4. Alors c'est sorti uniquement le 24 mars, uniquement au Japon.
Au Japon.
Mais dans une version qui a des sous-titres anglais.
Non, alors attention, des la menus version anglais. Attention, menu anglais, c'est la version Asie.
D'accord, qui elle est parée en Chine.
Ouais, voilà.
Chine,
Hong Kong, Taïwan,
Corée du Sud, tout ça.
Voilà. Oui. D'accord, enfin, donc cette version qu'on peut commander sur Amazon d'ailleurs, Japon même qui s'est
sur
ouvert
internet.
Machin, mais sinon il y a PlayAsia aussi, je crois qu'il y a
PlayAsia, c'est pour la version anglaise, Amazon Japon, ce sera pour la version japonaise.
Voilà, et donc vous pouvez vous la procurer, mais pas de manière officielle, puisqu'il y a la distribution en Occident, malheureusement.
Tu dis vous pouvez vous la procurer.
Tu parles de qui là?
Bah, ceux qui ont envie de jouer.
Non, mais vous pouvez vous la procurer ou pas, c'est Johnny Wan qui va nous le dire, parce que quand même.
Non, mais il y a des gens qui n'auront même pas choisi, je pense.
Ils ont vu des grosses paires de seins et ils achètent direct sans même. Attends, le test de Game Boy, des
propos. Ça doit être possible de le trouver en France si vous êtes parisien,
sûrement,
du côté de République.
Oui,
pour un tarif.
Oui, ou même chez notre partenaire
qui nous a prêté le jeu, effectivement. Et qu'on cite avec plaisir. Puisque
si vous êtes premium, vous pouvez voir, ça déborde de classe. Là, c'est Elena. Elena qui, je crois, est la vidéo la plus vue de toutes les news. Chaque semaine, ils ont fait des trailers. Et je crois que Elena, ça a été un truc de.
Alors, tiens, c'est marrant ça. Une petite anecdote assez rigolote. Enfin, le choix des 9 personnages du jeu a été fait via une espèce de sondage, un sondage payant.
Payant.
Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en ligne
les mecs, ils ont tout compris,
les thèmes de toutes les nanas de Dead or Alive 5 Last Round. Donc des thèmes où les filles sont en maillot de bain, il y a deux images, une petite musique avec des bruits de vagues. Donc des thèmes Vita et PS4. Et en fait, les 9 filles qui sont dans le jeu, c'est les 9 filles qui sont arrivées premières de.
D'accord.
Les 9 filles les plus achetées.
Les suivantes arriveront en DLC, bien sûr.
Ah, ils ont dit que non. Ils ont dit pas de DLC.
Franchement, si j'étais, je m'en priverais jamais. Quoi.
Mon œil.
Ah ouais, ça serait un scandale de pas le faire.
Quand tu vois la tétrachier de DLC de Last Round, où un gars qui achète Last Round aujourd'hui, il a 3 season pass à 90€.
Ah mais Last Round, il a quoi? Il a 4 ans dans le jeu. 3
non,
ans.
Last Round, c'est le DOA 5, il a quelques années. Last Round,
attends,
c'est la
il a
4ème
combien,
version.
Combien de DLC à combien d'euros, t'as dit?
Alors, si tu veux le
si
jeu.
Tu veux tout
si tu veux tout le jeu.
Bah, tu vas régler.
Et que tu commences, tu te payes donc ta galette à quoi? À 40 balles neuve, tu dois pouvoir la trouver moins chère. Et il y a 3 season pass à 90 balles chacun. Donc
putain,
ça fait 310€.
C'est de la folie.
Le jeu complet.
Bravo, voilà. Koei Tecmo.
Bon, mais
faire.
Alors ce Dead or Alive Extreme 3, alors qu'est-ce qu'il vaut?
Déjà, rappelons un petit peu le principe des Dead or Alive
Extreme.
Alors,
le principe, on pourrait croire à tort que c'est un jeu de volet. En fait, le volet, il est un peu annexe, j'ai envie de dire, là-dedans. C'est surtout un simulateur de vacances, en fait. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est limité dans le temps. Quand vous commencez, vous choisissez une fille. Vous choisissez une fille et vous avez 15 jours pour. Vous amusez, passez vos vacances
sur l'île de Zak.
Sur l'île de Zak et passez des vacances les plus réussies possibles. Donc en fait, c'est limité dans le temps. Quand vous faites une activité, le temps avance, la timeline avance. Au bout des 15 jours, le jeu est fini, vous recevez une note. Et donc le but du jeu, c'est de choisir une fille et
de faire en sorte qu'elle passe les meilleures vacances possibles en lui faisant gagner ses mini-jeux et en lui achetant le plus de maillots de bain possible, en lui faisant devenir copine avec les autres filles, en lui offrant des cadeaux, etc. Et en stressant l'œil au passage.
Voilà, et voilà. En l'applotant sur Vita, mais tu n'as pas eu la version Vita.
J'ai pas eu la version Vita, j'en reparlerai d'ici quelques semaines, je pense, de la version Vita.
Ouais. Voilà. Alors,
regardez comme ça, j'ai l'impression que c'est exactement le même jeu qu'avant.
Alors, c'est un truc de fou. Hein.
C'est les mêmes mini-jeux, l'espèce de petites bouées sur lesquelles tu sautes.
Parce que là, le boobing est vachement mieux fait.
Il y a des jeux qui sont exactement les mêmes que dans le 2. Mmh. Voilà, du genre le jeu où on doit appuyer sur la bonne touche pour traverser la piscine, ce genre de choses.
Ils ont rajouté du pole dance, non, c'est ça aussi.
Ça c'est une vidéo en fait de Bokeh, c'est pas un voilà.
Ah, je croyais que c'était
Non, c'est pas un des mini-jeux, c'est une des vidéos où tu te rinces l'œil, voilà. Donc en gros, le jeu, le principe c'est le suivant si vous connaissez pas. Donc vous débarquez, c'est le matin. Le matin vous choisissez votre activité, l'après-midi vous choisissez votre activité, vous avez une autre activité à faire le soir.
Déjà,
et la nuit vous pouvez la passer au casino. Donc les activités, il y en a 6. Donc c'est assez léger. Il y a une course. Donc au track and field, voilà. Il y a un combat de cordes. Les deux filles sont face à face sur des petits coussins et on tire sur une corde et c'est celle qui arrive à faire tomber l'autre.
Et celle qui tombe, elle a une bretelle qui tombe.
Voilà, quand elle tombe, il y a des bretelles qui tombent dans l'eau. Il y a un petit jeu d'escalade, genre QTE, qui me fait penser à la scène d'escalade d'Heavy Rain.
Ouais, la scène d'escalade dans la boue avec le mec du FBI.
Voilà, exactement. Vous avez.
Mais c'est pas aussi poulpesque que cette épreuve de Heavy Rain. Je veux dire, t'as pas besoin de faire R2, puis ensuite 3, puis ensuite.
Non, c'est un peu plus simple. Ah, voilà. Donc vous avez ça. Vous avez les combats de cul.
Les combats, il y a les deux filles dos à dos qui se donnent un coup de fesse.
D'ailleurs, petite surprise à la fin du podcast, un petit combat entre Julo et Plume.
Ah bon ? Bon, moi, je pense que
si m'a vu ton gros cul, ça va probablement gagner.
Ensuite, et donc bien sûr le mini-jeu phare, bien sûr, j'ai envie de dire, ce qui sera le volet, quoi. Voilà. Donc bon, les mini-jeux, ça reste du mini-jeu. Le jeu de volet en lui-même, c'est sympa, même si c'est vrai que c'est pas un vrai jeu de volet, quoi. Hein. Du genre, la balle ne peut pas sortir du terrain.
D'accord.
Voilà, c'est forcément une balle qui va tomber au sol quand on ne la rattrapera pas, ou une balle dans le filet qui va terminer.
Donc si on veut rejouer un jeu de volet, faut qu'on aille jouer.
Non, faut pas jouer à celui-là.
À Adidas Beach Volley de Océan qui est sorti il y a plus de 5 ans.
Non, tu te remets un jeu. Bien. Comment il s'appelait le jeu GameCube là qui est sorti? Enfin voilà. Non, il y a des trucs 10 fois mieux que ça au niveau jeu de volet. Voilà. En plus, il y a pas de mode multi. Donc ça aurait pu être sympa justement sur les.
Il y a un jeu de volet, mais tu peux pas jouer.
Non. Ça aurait pu être sympa sur tous les petits mini-jeux, genre le jeu de cordes ou le jeu de combat de fesses ou le jeu de volley, tout simplement.
Ouais, c'est dingue. Enfin, déjà, je trouve qu'il y a peu d'activités, dont beaucoup de redites, et en plus.
Mais c'est peut-être un jeu.
C'est un jeu pour célibataire, vous avez pas compris encore.
Bah voilà, un jeu que j'allais dire solitaire, un jeu que tu joues d'une main.
Pas forcément.
Ah ouais, d'accord.
Ah, tu sais pas forcément. Quand tu te balades un peu sur le net, sur les forums, etc., il y a pas mal de gars qui jouent avec leur nana à côté. Il y a des topics qui sont assez drôles où c'est ma nana m'a gaulé en train de jouer, ce genre.
Après,
enfin, c'est assez drôle.
On voit que les personnes qui adhèrent au style de DOA extrême, enfin tu vois, il y a pas d'a priori ou trucs comme ça, quoi. Il y a pas de ce qui fait qu'il y a eu cette polémique parce que Koei Tecmo refusait de le sortir en Occident parce qu'ils avaient peur justement des vagues de personnes qui allaient les accuser de sexisme incroyable.
Enfin, bah honnêtement, en même temps, c'est un petit peu, enfin c'est un jeu plus ou moins dégradant quand même pour l'image de la femme, non ?
Oui, plus ou moins. Mais après, enfin, si tu le places dans le contexte culture japonaise,
toi qui
la connais un petit peu,
là-bas c'est rien, quoi, c'est ça.
Voilà, pour eux c'est pas grand chose.
Mais ils ont pas du tout les mêmes, enfin je veux dire,
mais c'est un jeu pour le Japon,
et la même philosophie que nous sur ce genre de.
Il faut le dire, même si ça reste assez bon enfant, tu verras pas un téton ou quoi que ce soit. Ça reste arrangé dans une catégorie de jeux érotiques, jeux sexy, quoi. Voilà.
Mais d'où tire-t-on son plaisir dans ce jeu?
Voilà,
en fait,
les gens qui aiment ce jeu, alors, c'est juste pour le côté voyeur.
Ouais, je pense, franchement. c'est-à-dire que, bon, quand tu regardes en plus, toujours sur les petits modes de jeu, il manque le jet ski par exemple qu'il y avait dans le 2. Moi je sais que j'avais pas mal joué au jet ski dans le 2, bah là il n'y a plus. DLC peut-être.
Ouais,
je
ne sais pas.
Ouais, en fait, là où tu. Donc tu en fais assez vite le tour du jeu, en fait, si tu. Le but, c'est vraiment la collection. Donc faire le jeu plusieurs fois avec toutes les filles pour collectionner tous les maillots.
Et c'est pas trop fastidieux ?
Ah, si, c'est justement. Très long. C'est ouais. Très très long. Voilà. Donc l'intérêt principal du jeu, c'est la collectionnite.
D'accord.
Voilà. Donc il faut être patient. Il faut être patient. Il faut vraiment avoir envie de s'investir là-dedans. Et...
Est-ce qu'il le donne suffisamment envie ?
Alors,
quand on n'est pas
des fans de toute façon.
Donc, oui, voilà, si on n'est pas fan de
si on n'est pas fan de base, non. Bah, déjà, si on n'est pas fan de tout ce qui peut être érotique ou à caractère sexuel ou dégradant, il faut pas y aller. Ça, c'est sûr et certain.
Oui, bah ça.
Voilà.
Ça coule de sauce.
Si on n'est pas fan, qu'on est un peu attiré par tout ce qui est un peu sexy, etc. Ouais, on peut aller y jeter un œil. Maintenant, on n'y passera pas sa vie, je pense. Après, ouais, il y a des joueurs qui vont vraiment passer pas mal de temps dessus, qui vont être motivés pour la.
C'est vachement bien fait ou pas ou ça change
alors voilà.
Aussi, quand même.
Donc, jusqu'à présent,
ça, en fait, l'intérêt du truc, quasiment.
Jusqu'à présent, on a donné quasiment que des points négatifs. Tiens, un autre truc sur le fait que c'est quasiment le même jeu qu'avant. Les icônes dans les menus et tout, c'est les mêmes que dans le 2 qui est sorti il y a. En même temps que la 360, un tout petit peu, je crois. Ouais, donc ça doit faire une petite dizaine d'années.
Un petit 2007, je dirais.
Ils ont même pas changé les menus.
Alors, les menus sont les mêmes et tout.
Les modèles.
Il y a des trucs qui sont vraiment bien faits. C'est-à-dire, graphiquement, le jeu, ça tourne bien, c'est super fluide. Il n'y a pas de soucis. Non, c'est très très propre. En fait, le jeu, il propose un contenu qui va être conséquent pour le joueur qui veut s'y investir, qui est très très limité pour quelqu'un qui va y jouer en dilettante. Mais ce qu'il propose, il le fait bien. Voilà.
D'accord.
Ouais, avec une bonne technique derrière, il n'y a pas de bug, tout tourne très bien. C'est graphiquement, c'est joli. Voilà. Non.
C'est pas le jeu que tu vas conseiller absolument à tout le monde.
Si vous voulez,
c'est pas un jeu qu'on conseille en import.
Si t'aimes bien les trucs sexy, ouais, il fait partie des gros représentants du genre. Mais c'est pas le meilleur. Genre, j'ai testé le Senran Kagura la semaine dernière.
C'est ce que j'allais
dire. C'est mieux.
Sexy,
Senran
c'est
Kagura,
pas un genre.
C'est mieux.
C'est un genre qui existe au Japon depuis longtemps. Hein.
C'est une étiquette que tu peux coller à des jeux de différents genres, en fait.
Oui.
C'est-à-dire, là, c'est un simulateur de vacances. Senran Kagura, c'est un beat'em all mouzou.
Et voilà, c'est ça. Mais le simulateur de vacances en lui-même, il est nul.
Un peu, ouais.
On s'en fout. On sait qu'on a un prétexte. C'est pas la peine.
Voilà.
On tourne pas autour du pot.
On tient la conclusion. Le test n'est pas encore paru.
Non.
T'as déjà une
idée. Il arrive la semaine prochaine.
De
la
note j'ai une petite idée. Entre le 2, il est sévère. Un 2,5 ou un 3.
D'accord. Ouais. Donc ce serait soit moyen, soit satisfaisant.
Ouais, voilà.
Voilà, parce qu'il y a quand même des trucs qui te plaisent.
J'ai pas vraiment. Je suis en train de le rédiger. Le papier, il faut vraiment que je me mette dans le bon état d'esprit, état d'esprit vraiment neutre, voilà, pour trouver dans un état d'esprit neutre quelle est la note juste. Mais ouais, ça va tourner dans ces eaux-là, quoi.
D'accord, très bien. Bon, écoute, je suis presque déçu. Hein. Avec toutes les news sur les trailers que j'ai fait, je me disais, il y a peut-être moyen de se marrer. Non, en fait, je pensais pas ça.
Si, on va se marrer quand vous ferez votre combat de cul.
Ah oui, c'est vrai, on verra ça. Merci en tout cas pour ces impressions sur Dead or Alive Extreme 3 Fortune, parce que la version Vénus sur Vita, on verra
il y a quelques petites différences.
On va passer au deuxième thème maintenant, pour lequel Poufy va monter un tout petit peu le volume, pour que vous entendiez un petit peu de quoi que ça va parler. Et je vais me tourner vers Julo.
Ah, c'est moi, parce que j'entendais pas bien, justement.
C'est normal, on l'entend pas beaucoup. Mais c'est fait exprès.
C'est la musique du menu de Trackmania Turbo.
Exactement.
Alors, Trackmania Turbo, c'est le nouvel épisode d'une série qui est bien connue, mais surtout des joueurs PC. En fait,
exactement.
Elle a juste fait une petite. Un petit détour du côté des consoles en 2010 avec une version Wii et DS.
Exactement. Ouais.
D'ailleurs, c'est marrant parce que la version DS s'appelait Trackmania Turbo à l'époque. Mais ça n'a rien à voir avec le Trackmania Turbo d'aujourd'hui puisque cet épisode n'avait pas été développé par Nadeo à l'époque. Nadeo resté vraiment sur les versions PC. Et là, donc, Nadeo revient aux commandes de cette version console et PC. Là, pour le coup, c'est une version qui est identique
Nadeo
sur toutes les plateformes.
Nadeo Studio français, rappelons-le.
Studio français,
racheté par Ubi
tout
il y a quelques
années. Alors, Trackmania, c'est un jeu très connu dans le monde du PC et particulièrement pour son côté e-sport, c'est une discipline e-sport assez connue et pour cause, parce que c'est vraiment un jeu de défi. C'est pas un jeu de voiture classique dans le sens où en fait on va pas se mettre en piste contre des concurrents directs et le premier qui franchit la ligne d'arrivée a gagné. Non, c'est un jeu qui est vraiment axé quasi à 100% sur le time trial. En gros, tu vas te battre contre d'autres gens mais quelque part à distance entre guillemets avec des ghosts, parce qu'en fait le but du jeu c'est une série de défis plutôt courts, donc c'est pas forcément des circuits entiers, c'est même quasiment 80% du temps des portions de circuit qui vont durer 30 secondes à 1 minute.
Mais c'est pratiquement un runner en fait le truc, quand tu y réfléchis, parce que tu fais, t'as ton petit bout, puis si t'es pas content, bah tu recommences immédiatement.
Exactement, j'allais y venir, donc c'est vraiment du défi assez court, assez intense.
Et très simple surtout.
Et très simple. Alors, la jouabilité est extrêmement simple à prendre en main, mais difficile à maîtriser, parce qu'après, t'as l'environnement qui compte aussi, les difficultés de la piste en elle-même, etc.
Oui, parce et donc, que comme tu l'abordais. Tu te retrouves la tête à l'envers plus d'une fois.
Voilà, et... voilà. À la façon d'un Trials, tu vas, et d'autres jeux du genre, hein, tu as une touche carrément consacrée, hein, sur PlayStation 4, par exemple, c'est rond.
Pour
respawner au tout début de la piste et recommencer le défi immédiatement, sans aucun temps de chargement. Ouais. Donc, c'est indispensable parce que le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de péter le score d'une portion de circuit ad nauseam jusqu'à ce que tu arrives à battre Poufy, mais tu n'arrives jamais à le battre.
Et du coup, au lieu de péter le score, tu fais péter les fesses.
Et voilà, et pourquoi je parle de Poufy, parce que ce qui est génial, c'est que tu as un mode carrière, qui est un mode solo, dans lequel tu as 200 épreuves. Okay, 200,
ah, okay,
200 petites portions de circuit comme ça, qui vont devenir de plus en plus compliquées, sur lesquelles tu vas essayer d'avoir la médaille de bronze, la médaille d'argent ou la médaille d'or, voire même encore mieux la médaille verte, qui est en fait la médaille quand tu bats le score.
La médaille Poufy, donc.
La médaille Poufy, ouais. C'est la médaille quand tu bats le score du mec qui a développé
la piste.
Et du coup, tu vas faire ça pendant des heures, et puis au bout d'un moment, tu vas te rendre compte qu'il y a un truc qui s'appelle le centre des records. Mmh. Et quand tu l'affiches, bah, tu vois en fait le nombre de victoires que tu as par rapport à tes amis qui jouent au jeu. En gros, si tu as fait 60 pistes et Poufy en a fait 60 aussi, et les 60 mêmes, et bah, il y aura peut-être 30 à 30 ou 31 à 29.
Mais toi, il y a 69 à 0. Voilà,
ou alors, pour l'instant, j'en suis à 69 à 0 avec Poufy. Ouais. Mais c'est génial parce que tu vois vraiment tout de suite, en fonction de tes potes, il y a un score un peu comme un score de foot, quoi, voilà, ou de basket plutôt, où tu vois vraiment.
Ou à FIFA, le mode voilà. Justement où tu as plusieurs matchs que tu fais contre quelqu'un, et au bout d'un certain nombre de points, bah, l'autre est déclaré vainqueur.
Bah voilà, c'est ça. Sauf que là, bah, c'est une compétition permanente. Il n'y a jamais un moment où tu es déclaré vainqueur. Moi, je ne perds pas espoir de battre Poufy. Ça viendra dans 200 ans, peut-être.
En 2040.
Non, si tu prends des vacances d'un mois.
Voilà,
et que
par
tu
exemple.
Fais que ça.
Bah oui, évidemment. Et donc, c'est vraiment excitant de télécharger, du coup. Enfin, tu ne le télécharges pas, c'est immédiat, c'est pareil. Tu dis, bah, du coup, je veux me battre contre Poufy sur ce circuit. Clac, t'y vas. Tu jump directement sur le circuit moyennant un petit temps de chargement qui sont parfois assez longs d'ailleurs, c'est un des petits défauts du jeu, et bim, tu recommences à base de j'appuie sur rond et tu recommences pour essayer de faire le temps parfait, ou tout du moins celui qui sera parfait pour toi.
Alors sur le plan technique,
sur
visuel,
le plan technique, honnêtement,
et variété des environnements,
alors voilà, c'est pas totalement dingue graphiquement, mais c'est plutôt joli franchement, et surtout c'est techniquement assez infaillible, le framerate est constant, le jeu est joli, et même quand tu joues à 4 sur le même écran, parce que c'est l'une des nouveautés, voilà, version console oblige, ils se sont fait un mode multijoueur local, donc tu peux jouer à 4 en écran splitté, et même là, techniquement, ça tient la route. Donc,
mais il y a
ce
un autre mode multijoueur dont t'as envie de nous parler, je crois.
Alors, tant que je suis sur le mode multijoueur local, c'est important d'en parler, parce qu'ils ont fait un véritable effort pour proposer pas mal de contenu dans ce mode, et donc une esthétique et une technique à la hauteur.
Donc il y a une coupe étoile, une coupe feuille, une coupe champignon.
Un jeu d'épreuve de temps, sauf que là tu es directement sur la piste avec tes camarades. Et justement, c'est un peu contre nature, je trouve. C'est pas vraiment le genre de jeu qui s'y prête. Et d'ailleurs, ils ont essayé de développer tout un tas de modes qui s'appellent des modes secrets. Et tu les débloques en faisant des petites manips, etc. Et donc là, tu as une espèce de micro machine like avec une caméra fixe, hein, une espèce de Mario Kart like avec des petites options qui vont gêner les adversaires et tout. Mais honnêtement, tu y restes 5 minutes, c'est pas fun. Le vrai point fort du jeu, c'est d'y jouer soit seul dans son coin contre les gens, soit en ligne directement avec d'autres. Et là, c'est pareil, le jeu va pas aller contre sa nature. Et quand tu joues en ligne, t'es pas sur la même piste à devoir passer la ligne d'arrivée en premier. Non, tu peux être jusqu'à 100. Et tu vois 100 fantômes avec toi piste, et qui recommencent pareil en appuyant sur rond quand tu veux, et t'as un temps limité pour arriver à faire le meilleur temps sur cette portion de circuit. Après, t'as aussi des modes laps où tu vas devoir faire des courses un peu plus classiques. T'as aussi le mode stunt où tu dois faire des petites cascades et des rotations dans les airs, etc. Mais vraiment, enfin, je trouve que ce qui est vraiment génial dans ce jeu, c'est le côté time trial, le côté course au chrono permanente, que ce soit au calme, tranquille, en essayant de battre tes potes avec des ghosts, ou alors en mode en ligne directement avec d'autres gens. Voilà. Donc franchement, c'est un jeu qui propose énormément de contenu.
Et ce mode Double Driver alors ?
J'ai oublié le mode Double Driver.
Moi j'ai essayé de t'y emmener depuis tout à l'heure.
C'est une des nouveautés.
Salaud.
C'est vrai, c'est une des nouveautés. Parmi les nouveautés d'ailleurs, il y a un environnement entier. Il y avait 3 environnements cultes. Il y en a un 4e qui s'appelle Lagoon qui est rajouté.
Il n'y avait pas une histoire aussi de procédural, de niveau qui se crée au fur et à mesure?
Alors je réponds à ta question et je passe à ça tout de suite. Donc le mode Double Driver, c'est assez intéressant comme idée. Franchement, je trouve que c'est une très bonne idée. Jouez à deux sur une seule voiture. En gros, vous avez chacun 50% des inputs. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui doit tourner à gauche et l'autre qui doit tourner à droite. Non, c'est-à-dire que vous devez tous les deux tourner soit à gauche, tourner soit à droite, freiner, accélérer, etc.
Chacun avec une manette, hein, précise.
Sa manette. Et du coup, la voiture tournera mieux si vous tournez tous les deux au même moment.
D'accord.
Voilà. Comme Mario Kart Double Dash.
Mario Kart Double Dash.
Ouais, il y en avait un qui dérapait et qui lançait les options, c'était très fun de jouer comme ça.
Et là, ils se partagent pas. C'est chacun. Tout le monde a le contrôle de la voiture. Enfin, les deux joueurs ont le contrôle de la voiture, mais elle a un meilleur contrôle quand vous faites tous les deux la même chose.
Ouais, vous allez jouer 30 secondes et puis ça va vous gagner.
Voilà, mais le truc c'est que c'est presque trop facile en fait. Moi j'aurais bien aimé que ça soit difficile, dans le sens où, par exemple, il aurait fallu que une input soit validée. Par exemple, je tourne à gauche seulement quand les deux le font. Là, s'il y en a un qui fait rien et l'autre qui tourne, il va juste tourner un peu moins. Donc ça rend le truc assez facile. Après, il y a une espèce de petit potentiel e-sport quand même qui est assez décelable avec ce truc.
Ça a toujours été sa cible, hein, de toute manière, depuis des années.
T'auras Trackmania et Trackmania en équipe, quoi, si tu veux. Parce que quand il s'agit de gagner des millièmes de secondes, effectivement, là, il vaut mieux être super synchro, etc. Après, c'est une nouveauté sympa, mais un peu comme toutes les nouveautés du mode local, c'est pas celle qui intéresse le plus. La vraie nouveauté pour moi, c'est le nouvel environnement, Lagoon, avec tous ces nouveaux circuits, ces nouveaux décors, ce nouveau type de bagnole, etc.
D'accord.
Pour répondre à l'autre question que tu me posais, il y a effectivement un mode de création de course qui est super bien. Honnêtement, il est d'une simplicité absolue. En plus, tu as plusieurs degrés de difficulté, entre guillemets. Tu peux faire un truc très simple, très vite, si tu restes dans l'éditeur simple. Et puis, tu peux basculer sur différents niveaux de difficulté de création. Ouais. Et donc, avoir plus d'options. Et là, tu peux vraiment tout optimiser.
Et tu peux faire un truc random aussi,
Nouveauté. Et ça, c'est une très bonne nouveauté. Tu appuies sur un bouton et bim, il te construit un circuit sur mesure comme tu veux. Donc, il y a potentiellement une véritable infinité de pistes. Surtout que il fait ça assez vite, assez vite entre guillemets, parce qu'après il y a un temps de chargement qui est très long avant de pouvoir le tester. Mais c'est un jeu sous le signe du chrono et du fun, quoi, et de la marge de progression permanente.
Si vous êtes premium, j'aime beaucoup les couleurs de la voiture qui est en train de tourner. Ça me rappelle notre ami Rami.
Ouais.
Si vous voyez
c'est la voiture algérienne là.
Exactement.
Ouais, parce que il y a un truc assez génial. Ça, j'en ai pas parlé et je finirai là-dessus. C'est que quand tu lances le jeu la première fois, tu sélectionnes ta région. Par exemple, quand t'es en France, il te met pas forcément tout de suite en France. Donc tu pars de monde, tu choisis France. Ensuite tu choisis Île-de-France et ensuite tu choisis Paris, et ensuite t'as pour le classement mondial qui est affecté y compris par le jeu solo.
Ça, c'est bien ça.
Tu sais toujours le combientième parisien tu es, le combientième d'Île-de-France tu es, le combientième français tu es, et le combientième mondial tu es.
D'accord.
Donc ça, c'est c'est un jeu qui est bien conçu sur ces trucs là et à la fois assez mal conçu sur d'autres choses. Il manque des options terriblement qui aurait été terriblement utile, indispensable. Par exemple, quand tu joues en multi en ligne, tu peux désactiver le nom qui apparaît au-dessus de chaque voiture. Quand il y a 100 voitures sur le circuit, t'imagines le bordel que c'est. Mais tu peux pas désactiver les voitures adverses, les fantômes.
Ouais. Ah merde.
Pour l'ajouter, l'instant c'est un peu chiant. Les menus sont assez mal foutus quand tu veux créer ton salon, ta propre partie en ligne. C'est pas évident. Les trucs sont soit mal expliqués, soit pas faciles à trouver, etc. C'est des petits défauts comme ça. Et moi je déteste les buggy. C'est-à-dire qu'il y a un environnement que tu joues qui s'appelle, je sais plus comment, Dirt and je sais pas quoi, où t'as un type de véhicule donné.
C'est incroyable, t'es en train de nous faire la transition vers le prochain thème.
Voilà, justement, les rallyes, les rallyes en mode Dirt and Truckmuche, ils sont juste super relous. J'aime pas du tout la jouabilité des véhicules. Alors que les véhicules de drift, c'est un pur kiff. Les véhicules de F1, c'est un bon kiff aussi parce que c'est la plus dans la trajectoire, etc. Et les nouveaux véhicules qui sont sur les circuits roller
roller coaster où tu passes en vue subjective quand tu rentres dans les loopings, etc. C'est une vraie bonne nouveauté. Ça va, ils sont assez sympas, mais vraiment les buggy ils m'ont saoulé.
Bon, au global, c'est un jeu qui mérite combien?
Au global, c'est un jeu qui mérite 4, à savoir c'est un très bon jeu. Et on vous le recommande vraiment si vous aimez le côté fun et compétitif qu'il peut y avoir dans un jeu de course.
Défilé.
Voilà. Faut pas s'attendre à un jeu de course classique, ça part dans tous les sens, c'est totalement barré et tout. Mais il y a une vraie dimension compétitive qui est géniale. Et surtout, une jouabilité immédiate. Tu prends en main tout de suite le jeu et en même temps, tu progresses constamment. Constamment.
De toute façon, vous êtes sûr de trouver du monde contre qui
Ah bah il y a du peuple.
Contre qui faire de la compétition, parce qu'il y a une communauté gigantesque autour de Trackmania. Et à mon avis, elle va bien s'étendre avec cette version console.
Ouais, même si le jeu n'est pas sur Media Planet, parce que tu sais que en fait Nadeo avait développé avec Shootmania.
Avec Shootmania, absolument.
Et avec Trackmania.
Trackmania Storm. Si je me rappelle. Ouais.
Voilà, je sais pas si c'est Storm. Bon, enfin, ils avaient développé véritablement un hub à eux, quoi. Mania Planet, c'est ça, Mania Planet, dans lequel tu avais tous les scores des différents jeux, des machins, etc. Là ils en sortent avec cette version qui sort sur console aussi, donc c'est un peu logique, mais la dimension vraiment communautaire compétitive de chaque instant est toujours là, et c'est ça qui est vraiment très bon dans le jeu, quoi.
Bon, très bien, Julo. C'est du genre de truc qui vous brancherait, Johnny ou Trackmania?
Alors moi, Trackmania, le dernier que j'ai fait, c'était le tout premier.
Ah, d'accord.
Moi, c'était sur Wii.
J'avais pas mal dosé à l'époque. Hein.
C'est vrai?
Ouais.
Il avait fait un sacré carton, le premier. Ouais, ouais. Je me rappelle de l'avoir retrouvé plusieurs fois des ESWC, justement, où tu voyais les mecs, ça se jouait mais au poil de cul à chaque fois.
Ah, mais ça se joue au poil de cul, vraiment. Hein.
C'est pour ça que c'est génial. 40 000 fois.
Parce que la première fois que tu fais un circuit
temps,
ou un défi, quoi, on va dire une portion de circuit, tu arrives facilement à avoir la médaille de bronze, tu batailles un petit peu pour la médaille d'argent, un petit peu plus pour l'or, mais quand tes copains entrent dans la course et que là tu commences à vouloir
un temps,
là, l'optimisation de chaque virage, de chaque levée d'accélérateur au freinage, la façon dont tu trajectes, etc., tout, absolument tout compte, et au bout d'un moment sur les circuits t'as des pièges, des petites bosses, des machins, donc c'est à toi de voir. T'as des moments aussi où tu peux sauter et passer par dessus un turbo, ou alors décider de freiner avant et de prendre le turbo. Enfin, c'est vraiment super technique, et ça
moi ce qui me surprenait à l'époque, c'était surtout que vraiment t'avais besoin que de deux touches du clavier du PC.
Bah là c'est
et
pareil,
tu jouais absolument.
Ah bah là, non, bah là c'est le même délire, hein. C'est accélérateur, frein, point final, hein.
Et respawn,
et le bouton pour respawner, t'es en vol générateur,
ça accélère tout seul.
C'est à dire tu peux manger en même temps?
Non, ça accélère pas tout seul.
Ah non, ça accélère
tout seul.
Ah non, bah moi je me souvenais que ça accélérait tout seul à l'époque. Il me semblait, ouais.
J'ai
dû confondre
dans le premier.
Vous me corrigerez dans les commentaires, évidemment. Si j'ai dit des conneries, ça arrive souvent, vous inquiétez pas.
Des conneries,
Thierry. Exactement. Bon, on va passer au troisième thème. Et comme tu nous as fait presque la transition avec tout à l'heure, on va parler encore bagnole, hein, mais on va parler bagnole et un peu poussière, et un peu gadou aussi.
Et un peu
avec trace surtout. Oh là, pitié. Bon, bref.
Bon, par contre, moi je vais pas être aussi.
Ah, je rappelle, Trackmania, ça me fait penser. Il est sorti sur PS4, Xbox One et PC. Et il est sorti le 24 mars. Voilà, il fallait
le jour de l'anniversaire de ma maman.
Alors, c'est vrai?
Oui, comme ça.
C'est vrai. Ah, bah écoute, c'est un bon anniversaire de ma part. Tiens.
Ouais. Incroyable.
Dirt, lui, il arrive le 5 avril. Dirt Rally. Voilà. Olive nous a fait un super test
avec tous ses volants qu'il a chez lui.
Mais Olive n'est pas dispo, et du coup on a que Trace à disposition.
Moi, Trace qui avait fait quand même toutes les prévues, qu'elle
a gardé. Trace qui l'a bien dosé un petit peu aussi. Et Trace, tu vas nous livrer un petit peu ton sentiment.
Voilà, bon, quand je vous disais, je vais pas être aussi bavard que mes deux acolytes.
C'est vrai, tu vas juste dire c'est bien et tu vas te casser, c'est ça?
Non, non, mais on avait déjà parlé dans la partie les jeux les plus attendus, donc
bah
vous savez très bien.
Va falloir que t'étoffes un petit peu.
Mais bien sûr.
Maintenant que tu y as joué vraiment.
Mais.
Non, parce que je vois que t'hésites, t'es réticent.
Non, non, j'essaie pas de
faire
du tout.
Non, parce que tu veux passer par quatre chemins là, tu veux faire des détours.
Tu vois les chemins là-bas? C'est exactement pareil. Je vais passer, tu vois. Non, mais Dirt Rally, c'est quoi? C'est retour aux fondamentaux par Codemasters, évidemment. Mm-hmm. Le légendaire développeur de jeux de course qui ont fait tous les Colin McRae à l'époque et tout. Mais justement,
les Colin McRae, les grids aujourd'hui encore.
Exact. Mais justement, ils reviennent à l'époque des Colin McRae qui étaient les jeux de rally les mieux développés depuis toujours, quoi. Donc là, on peut le dire sans difficulté, c'est le meilleur jeu de rallye qu'il y ait jamais eu. Pourquoi? Parce qu'il est archi complet déjà.
Ouais.
T'as pas les championnats officiels parce qu'ils ont pas la licence.
C'est WRC qui l'a,
exactement.
Ça
malheureusement, parce que WRC5, lui,
il est
pourri. Planté, hein.
Voilà, exactement. Enfin, il est pourri, oui, il est pas exceptionnel.
C'est Sébastien Loeb qui est pourri, je crois. Plutôt. Non, c'était pas ça.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ouais. On va dire qu'il y a Dirt Rally, WRC5 et Sébastien Loeb. Voilà.
D'accord. Et le soleil qui est juste au-dessus.
Et tu sais le soleil, exactement. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a tous les circuits possibles et imaginables, enfin tous les rallyes possibles et imaginables dans Dirt Rally, même si ça s'appelle les officiels. On a toutes les surfaces, évidemment, du championnat. Terre, gravier, gadou, asphalte, etc. etc. Donc là, évidemment, là-dessus,
la R5 Turbo.
Des voitures modélisées à la perfection. Et comme disait Johnny à l'instant, on a des voitures des années 60, 70, 80, 90.
C'est vrai, on a une petite Renault 12 Gordini
2000,
qui traîne.
2010.
C'était 12 ou 8, je sais plus. La Gordini, la fameuse Gordini, c'est la R8.
La Clio Ragnotti, j'ai remarqué.
J'ai fait du rallye sur la R8, il y a très
c'est vrai.
Ouais. Enfin, du rallye libre, pas en vrai.
Voiture mythique.
Et c'était assez fabuleux.
J'ai rêvé de faire du rallye, moi. Ça me ferait tellement kiffer.
C'est chaud.
Moi aussi, en conduisant, mais en étant sûr qu'il y ait des bouées sur les côtés. Ou des
coussins. Oui, quand j'en ai fait,
comme au bowling, tu sais, avec des barres sur la piste.
Non, sur les routes sinueuses, je serais pas cap.
Mais en fait, j'ai jamais fait de dérapage de ma vie. Je sais même pas comment on fait.
J'ai jamais été sur un parking.
Non, je suis déjà monté avec Trace.
Ah bah, tu montes avec Trace, ouais, là tu flippes.
Ah bah, tu fais tout avec Trace, hein, Paris, hein, tu décolles. Rémi Julienne, tu vois, là, les trucs où tu roules sur deux roues, là, tu sais, après avoir après passé à côté d'un camion.
Mais vraiment. Sauf que lui, il excelle dans une autre discipline, c'est qu'en plus, il insulte les gens autour de lui.
Non, alors là, je m'inscris en faux, le pire, c'est Plume. Alors lui, au volant, mais c'est un fou.
Ouais, mais Plume,
il insulte tout le monde.
Plume, il conduit comme ça, près du volant, comme un pépé.
Et là, il dit, oh non, attends, le feu, allez passer à l'orange, je me suis donc arrêté.
C'est exact, je conduis prudemment, moi, monsieur. Ouais. Je conduis pas comme un Parisien en essayant de.
Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, le Parisien se réveille, il est là, et moi je conduis pas du tout comme ça. Je viens de la province,
ça se prend vite, le Parisien.
Ouais, non, mais je m'énerve super souvent, c'est vrai.
Ah bah, faut c'est un peu égaré là quand même.
Ouais, c'est vrai, justement. Pour Dirt Rally.
Qu'est-ce que je disais? Je sais plus où les gars.
Ouais, tu en étais à toutes les surfaces et les véhicules,
les sensations d'avant et de surface. Et. Évidemment fait à la perfection, puisque que ce soit au volant ou à la manette, on ressent vraiment la texture du terrain. Là-dessus, ils ont insisté qu'effectivement, ils ont bossé ce truc-là, mais comme des malades. Donc du coup, on peut...
Ce qui fait que par rapport à des jeux comme Project Cars ou même Forza, dans cette
c'est
discipline...
C'est pas la même chose.
Ouais, mais dans la discipline, ils ont du rallye aussi, ils en proposent.
Oui, mais, tu trouveras pas mieux que Dirt Rally, c'est pas possible. Vraiment, là, ils ont mis le...
Le paquet.
Ils ont mis le niveau très 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 haut, la barre très haute. Donc, je regarde les images en même temps et je suis bluffé encore, tu vois, rien qu'à voir ça. Et c'est vraiment le jeu, ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est assez hallucinant, quoi. Donc, oui, ils ont vraiment progressé dans la manière dont les suspensions réagissent, les pneus réagissent, etc. Évidemment, t'as plein de paramètres que tu peux changer.
Alors, mais il n'y a pas toujours cette sensation de réalité exagérée, c'est-à-dire genre les freinages sont peut-être un peu trop poussés.
Ah non, justement.
Non. Là, les jeux de voiture, maintenant, ils tendent à aller vers plus de réalisme. Mm-hmm. C'est au Corsa, c'est exactement pareil quand tu joues dans un baquet avec le volant, etc. Mais effectivement, quand tu freines, tu sens que tu vas pas freiner 50 mètres avant, quoi. Non, tu vas freiner vraiment bien 100 mètres avant parce que la voiture qui est lancée à pleine vitesse, ben, tu dois l'arrêter, quoi.
D'accord.
Et Dirt Rally, c'est pareil. Par contre, Dirt Rally, un des trucs un petit peu pénible pour les joueurs lambda, entre guillemets, c'est qu'il est vraiment dur.
Ouais.
Alors, même si tu as plusieurs niveaux de difficulté de l'IA quand tu joues en mode rally carrière, ça peut aller quand tu feras tes temps et comparé à les haulers, mais dès que tu te mets en niveau moyen, en normal. Par contre là accroche-toi, hein. Tu te retrouves très très vite à 10 ou 15 secondes derrière et sans avoir fait une faute, tu sais pas pourquoi. Pareil, hein, si tu sors de la piste un tout petit peu, bah voilà, t'es pénalisé, tu reviens, t'as perdu 12 secondes parce que c'est la pénalité infligée. Donc il vaut mieux connaître toutes les surfaces oui, et toutes les spéciales avant de se lancer.
Et bien écouter le copilote.
Ouais, mais alors j'allais y venir justement. Le copilote.
À la limite, faut...
Est-ce que le copilote est bien intégré?
Oui, il est super bien intégré.
Je me rappelle de certains jeux de rallye où c'était un peu retardataire.
Non,
ou un
là
peu...
c'est très bien. Mais c'est pareil, il faut s'y faire, hein, parce que comme ils disent à chaque fois les commentaires un peu avant, ton cerveau il doit percuter que t'es sur la route, mais que deux ou trois virages après, tu vas devoir tourner à droite, d'accord, à gauche, ou aller tout droit, ou sauter une colline, etc.
Ah, t'as pas précisé un truc, c'est qu'ils font du. On a vu quelques images.
Attends,
du Pikes Peak aussi.
Oui, mais
on en avait parlé, les jeux les plus attendus.
Oui, bien sûr, en plus du mode rallye, qui est ultra complet, enfin du mode carrière, pardon, qui est ultra complet avec, je dis, la Finlande, Monte Carlo, machin, enfin tous ces pays où le rallye a l'habitude de venir. Vous avez aussi du Pikes Peak, donc
c'est la course de côte, c'est ça.
La course de côte aux États-Unis, enfin c'est plus une montagne qu'une côte.
D'ailleurs, ouais, il y en avait vers chez moi.
Voilà, exactement. Donc avec les 405 turbo 16, les 205 turbo 16 qu'ils ont intégrés, ils n'étaient pas obligés, hein, mais voilà, ils l'ont fait parce que ils trouvent que fait partie de l'histoire du rallye, du Pikes Peak, etc.
C'est des voitures cultes.
Effectivement, c'est des voitures qu'on ne retrouve plus maintenant.
Il y a l'ancienne voiture de Colin McRae, c'était quoi, la Ford Focus,
justement, ouais.
Oui, on roule en focus, c'est vrai.
Je vais venir après. Mais juste un truc sur Pikes Peak. je savais peut-être, mais ils ont resurfacé toute la piste, enfin toute la colline.
C'est plus du gravier, c'est du bitume.
Voilà, ouais. Du bitume. Eux, ils ont gardé les deux en fait. Ils ont mis
l'ancienne version.
Plus celle-là, parce qu'ils estiment que le vrai Pexpi,
ça fait partie de l'histoire.
C'est le gravier avec la poussière qui se lève, etc. Où c'est un peu plus dur que l'asphalte quand même. Voilà, donc ça, c'est une deuxième partie du bidule. Et le troisième, tu disais quoi? Oui, sur Colin McRae, ils ont fait un. Comment on appelle ça?
Un hommage.
Un hommage super complet, parce qu'ils ont récupéré toutes leurs voitures, toutes ces voitures de l'époque, modélisées évidemment exactement pareil, avec les vraies couleurs, etc. Ils ont fait un petit historique avec des vidéos, des machins, tout ça. Donc ceux qui veulent utiliser.
C'est un peu comme l'intégration de Michael Jordan dans.
Oui, dans NBA 2K,
à l'époque.
Exactement.
Ouais, voilà,
c'est exactement ça.
Les vidéos là, j'ai vu pas mal de vieilles bagnoles assez mythiques quoi. Toutes les Renault, les 60, toutes les Peugeot, 70, toutes les Citroën,
les tractions, ouais. Etc. L'ancien Stratos.
Ouais, il y avait
quand
la Delta
Stratos,
aussi.
Bah, accrochez-vous parce que quand
cool, parce qu'ils ont, même s'ils ont pas les licences WRC, ils ont les licences de la FIA si je ne m'abuse, c'est ça.
Je sais pas quel genre de licence ils ont. Non, je crois qu'ils ont fait. Ils ont été licenciés par chaque constructeur. Hein. Ils ont été voir chaque constructeur. Hein.
D'accord.
Ils expliquaient que pour Peugeot, ils avaient demandé à Peugeot, machin et. Et tout simplement, je pense qu'ils ont fait un par un. Ils n'ont pas du tout de licence officielle.
Pour les fans de rallye, ça doit être terrible.
C'est le jeu le plus complet qu'il y a.
Mais ça doit être terrible de voir que le WRC 5 et la licence n'est pas celui-là. Quoi.
Bah après, ce n'est pas les mêmes développeurs non plus.
C'était
donc,
comme les FIFA et PES à l'époque.
Bah ouais, exactement.
Non, mais là, il est tellement complet que tu peux pas passer à côté, c'est pas possible.
Donc globalement, c'est non seulement c'est beau, mais en plus les sensations sont géniales.
Ah oui.
Donc t'as rien à leur reprocher quasiment.
Au volant que ouais, tout à fait. Le seul truc que je peux reprocher, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment dur. Donc faut vraiment y jouer pour essayer de décrocher les rallyes, etc. Mais bon, après, encore une fois, tu te mets en mode facile. Et...
Personnellement, j'ai toujours trouvé ça plus dur que les jeux de rallye.
Ouais, moi aussi. Hein,
que les jeux sur piste.
Moi, je trouve ça plus agréable, perso. Plus agréable, les Sega Rally,
c'est arcade pur,
ouais, bien sûr, mais les jeux où c'est ça génial, glisse, mais... où t'as cette sensation de dérapage, où tu dois en permanence déraper, ça m'a toujours beaucoup plus que les jeux de voiture classiques.
Je comprends.
Et Colin McRae 2, par exemple, qui tourne derrière nous, n'est-ce pas? Lui, vous voyez, ça, j'ai passé un temps fou, alors que j'ai jamais été un adepte des jeux de bagnole, donc celui-ci va sûrement m'intéresser aussi.
Et pareil, quand t'as des dégâts, des choses comme ça, évidemment, ça... Ça touche le véhicule, etc. Donc tu te retrouves très très vite à abandonner parce que t'as pété un truc. Alors
que t'as pété les essieux.
Dans d'autres jeux de rallye, tu fais une touchette comme dans Dirt Rally, tu peux aller jusqu'au bout encore et sans que ça
affecte quoi
que
ce soit ta conduite. Bah, Codemaster, je les adore.
C'est impossible.
Ils n'ont jamais eu de soucis de ce côté-là.
Et attention, il y a aussi encore un autre truc. Bon, là, c'est pour les fans, c'est plutôt rigolo, c'est du rallycross. Des toutes petites courses sur des circuits tout toupis, par exemple du. Un 8, tu vois, comme
oui,
ça.
Oui, à deux en même temps.
Avec un peu de terre, un peu d'asphalte. Et effectivement, là, tu peux concourir. Non, je crois qu'il n'y a que 6 véhicules qui concoursent là-dessus, 6 en même temps. Et donc, ça fait des mini-championnats, etc.
Mais c'est deux voitures en même temps, non, c'est pas ça?
Non, je parle pas de ça. C'est du rallycross, c'est vraiment à plusieurs, en fait. Tu fais un mini-championnat, tu peux être éliminé en demi-finale, etc. Mais c'est un mini-championnat de 2 ou 3 tours, tout simplement.
D'accord.
Et c'est assez rigolo, quoi, parce que t'as les deux surfaces en même temps, donc du coup, faut être bon sur les deux, faut choisir les bons pneus, etc. Quoi. Bon. Enfin bref, c'est génial, achetez-le.
Ok, il a pris combien sur Gameblog?
Il a eu 4.
Il a eu 4 indispensables.
Oui, il a eu
indispensable. Bon, il a eu l'indispensable.
J'ai eu peur.
Tu me poses une colle.
En tout cas, il arrive le 5 avril sur
oui,
PS4
il a eu l'indispensable, tout à fait.
Et Xbox One. Il est déjà sorti sur PC en dématérialisé. Ouais. Il est disponible depuis le 7 décembre, mais la version boîte arrive aussi le 5 avril.
Et la version PC aura tous les DLC qu'ils ont du coup inclus dans les versions console.
Et ben voilà, ça va être encore un bon moment pour les gens qui veulent
tout ça, voilà.
De la bagnole et du sable et de la gadoue et tout ça.
Exactement.
Et maintenant, on va passer à un autre jeu qui sort le 5 avril. Et lui, on peut pas dire qu'on l'a pas attendu. Hein. Ça fait... Oulala, attendez, depuis 2013, je crois. Depuis la première fois qu'on l'a montré, c'était en 2013. Hein, si je m'abuse, à l'E3 2013.
Pas plus que ça?
Ou 2012. Je ne sais plus. Une des premières fois que la Xbox One avait été révélée. Il faisait partie des gros plans de la Xbox One. Bon, depuis, il est aussi passé en sortie sur PC. C'est Quantum Break. Et ben Quantum Break, c'est moi qui me suis fait le test. Quelle déception! Mais alors, quelle déception! Non, ça va, je déconne! Détendez-vous! Quantum Break, moi j'y croyais depuis le début, j'étais pas le seul. Hein.
Ah non, pas
et
du
j'ai
tout.
Pas été déçu. Vraiment, le voyage a été beau. Alors, évidemment, les ambitions faisaient un peu flipper hein, par rapport à Quantum Break, savoir de proposer un nouveau jeu d'action dans lequel on manipule le temps avec un casting de taré. Et je lis des commentaires hein, de temps en temps, notamment sur le test hein, qui est déjà paru, qui disent oui c'est des acteurs de seconde zone, etc. Bon bah là je sais pas ce qu'il vous faut, mais
ah bah c'est pas non, le grand casting hollywoodien, c'est des mecs.
Tu attends à quoi, avoir Al Pacino, enfin tu vois, faut arrêter un moment.
Willem Dafoe.
Ouais voilà, mais enfin c'est des acteurs qui ont largement fait leurs preuves dans leur domaine.
Je veux dire, mais ils sont pas très connus, c'est tout.
Sean Ashmore, ça fait quand même 16 ans qu'il est dans X-Men.
Ouais,
je dis
mais
ça,
il n'a pas un grand rôle dans X-Men.
Iceman, c'est pas non plus le perso qu'on
non,
connaît le moins.
C'est un de seconde zone, quoi.
Seconde zone.
Second couteau.
Ah oui.
Mais c'est toi la seconde zone, Julo.
Iceman.
Alors, bien sûr qu'Iceman, Bobby Drake est super important. Qu'est-ce que tu racontes?
Dans les films?
Mais bien sûr.
Les films, tu veux dire?
Mais bien sûr, attends. Okay,
moi, attends, les films X-Men, lesquels?
Attends, Monaghan, il est quand même connu.
Il a tellement de films X-Men. Voilà, ensuite, il y a Dominic Monaghan, qui est quand même un mec qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux et dans Lost. Mm. C'est pas non plus quelqu'un qu'on a oublié comme ça.
Il y a Littlefinger, là.
Voilà, il y a Aidan Gillen, qui lui incarne Littlefinger dans Game of Thrones et qui jouait le maire Tommy Carchetti dans The Wire. Lance Reddick, qui jouait aussi dans The Wire, qui joue dans Fringe. C'est quand même un casting qui a de la gueule. C'est des gens qu'on fait une performance pour ce jeu qui est assez notable hein, quand même. Il y a aussi une modélisation en jeu qui est parfaite, et puis surtout dans la série, parce qu'ils se sont permis le petit luxe d'avoir une série qui vient s'intégrer à la fin de chaque acte, une petite série live action qui vous explique un petit peu l'autre côté ou les autres côtés d'une histoire qui est assez complexe, de voyage dans le temps, de fracture du temps. Alors, je résume vite fait l'histoire. Vous incarnez un mec qui s'appelle Jack Joyce qui va retrouver son plus vieux pote dans une université dans laquelle il a installé son petit complexe pour sa boîte qui s'appelle Monarch. Et donc, ce meilleur pote va lui montrer une machine à voyager dans le temps.
À 4h du mat.
À 4h du mat, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça, c'est la grande question que je me suis posée en faisant le test. Bah non, j'ai pas checké.
Pour revenir au début de la soirée.
Si, parce qu'il avait besoin qu'il y ait plus personne dans les locaux. Soirée,
ouais, mais bon, il y a peut-être d'autres raisons encore. Mais c'est vrai que.
Enfin, c'est des raisons cosmiques, mais je te les dirai un jour peut-être.
Ok, d'accord.
Si t'es sage.
Toujours est-il que ça va partir en cacahuète parce que le frère de Jack, qui a bossé sur ce projet, va arriver, va dire non, arrêtez ces conneries. Il va malheureusement tirer un coup de feu qui va foutre un peu le bordel. Et du coup, la machine va s'enrayer. Et du coup, le temps va se détraquer complètement. Et Jack, lui, va devoir s'enfuir en étant poursuivi par toute une armée de soldats à la solde de Monarch et à la solde de celui qui était son meilleur pote et qui est réapparu plus vieux.
Et qui d'un seul coup devient une espèce de grand méchant
exactement, qui devient une espèce de grand méchant. Mais est-il seulement méchant? C'est la question qu'on va se poser tout au long du jeu, parce que par moment on va prendre sa place. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, une fois que vous avez fini de jouer avec Jack, vous prenez la place de Paul et reste Pierre, vous allez me dire, mais non.
Dire, et Pierre, il est où?
Qu'est-ce que tu fais là? Il chante le reggae ou un truc comme ça, je sais plus. Bref, toujours est-il, donc vous prenez la place de Paul et vous avez un choix à effectuer qui n'est pas toujours très moral. Je prends le choix de la fin du premier acte où vous avez le choix entre soit éliminer tous les témoins de la scène justement de la fracture temporelle, soit vous servir d'eux pour de la com et dire que tout ça c'est de la faute de Jack Joyce le héros. Donc
ça,
c'est très bien foutu. À chaque fois, à chaque choix, il y a une incidence réelle sur le scénar de la série live action.
Ah, parce qu'on te demande de choisir ce que choisirait le méchant.
Exactement. Le méchant qui a des.
T'es un salaud ou t'es un salaud quoi.
Tu peux être un vrai salaud, mais en même temps, il faut savoir que ce méchant n'est peut-être pas si méchant que ça, et que peut-être qu'il a. Comment dire.
Au début, tu le vois avec Jack, il se tape dans le dos et ils sont super potes.
Il a peut-être une idée derrière la tête qui est peut-être moins méchante que ce qu'on imagine, mais je peux en dire trop. Et donc.
On a déjà dit trop en fait.
C'est vrai.
Le fait
j'ai
déjà compris ce qui se passe à la fin quoi.
Mais non, arrête un peu tes conneries.
Tu spoiler,
dis pas de conneries Thierry. Et donc une fois que vous avez fait ça, ça va avoir une incidence sur la série en elle-même. Donc le scénario va peut-être pour certaines personnes s'altérer complètement, et puis même sur le jeu, il y aura des personnes et des destins qui vont être complètement différents, des alliés qui seront différents aussi en fonction des chapitres. Mais bref, ça c'était pour la partie live action et la partie acting.
Petite question technique. Oui. Du coup, le live action, il tourne plusieurs fois certaines scènes.
Exactement. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense en tout cas, que quand vous téléchargez
les 800 gigas de...
les 75 gigas de vidéos, c'est en grande partie parce que.
Attends, c'est pas sur le disque ?
Non, c'est pas sur le disque.
75 gigas ?
Oui, mais tu peux, si tu peux pas les télécharger à ce moment-là, c'est juste un streaming.
C'est un streaming. Mais si t'as une seule connexion,
si t'as une seule connexion, il vaut mieux les streamer que les télécharger.
Je pense qu'ils auraient dû les foutre au moins sur un DVD à part ou sur un Blu-ray à part et nous les faire les installer parce que là, si t'as une seule connexion, franchement, c'est mal barré parce que c'est à peu près le plus important, le scénar du jeu.
Et même, regarde, tu supprimes le jeu un jour. Ouais. Je suppose que tu supprimes la match avec en même temps.
C'est-à-dire
check sur PS4, tu installes un DLC, tu installes ton jeu. Quand tu veux virer ton jeu, tu vires la match et le DLC avec.
Ouais.
C'est la même chose sur One.
Tu penses aux épisodes, c'est ça ?
Bah oui, c'est-à-dire
les épisodes sont à part. Hein, le bundle non, est à part.
Ah, c'est à part. Ok, d'accord. Absolument. Donc, tu peux virer ton disque de jeu, le désinstaller,
mais garder
ce que tu as téléchargé.
Normalement, oui.
Et garder donc 75 gigas de disque dur.
Ce qui nous fait environ 130 gigas, 140 gigas pour y jouer si jamais vous avez une connexion bof et que vous préférez ne pas streamer. Toujours est-il donc que si vous voulez, vous pouvez les zapper hein, ces séquences-là, comme vous pouvez zapper toutes les cinématiques.
Mais
faudrait franchement être stupide parce que tout l'intérêt du jeu, d'accord, c'est un jeu d'action. Peut-être pas en fait. Moi, je pense que c'est
moyen, on va dire.
Je pense en ce qui concerne
Alan Wake, tu considères que c'est un jeu d'action ?
Non, pour moi, c'est un jeu d'aventure narratif avec des séquences d'action. Ouais, c'est exactement ce que je pense de Quantum Break.
Bah ouais.
Il y a des phases d'action effectivement un peu.
Tu peux pas savoir à quel point tu me rassures quand tu dis ça parce que moi, quand j'ai vu Quantum Break, je fais une confiance un peu aveugle en Remedy, donc je me disais bon, ça va.
Et t'as raison.
Je pourrais pas être déçu, mais je me disais putain, ça ressemble à un jeu d'action, merde. C'est chier. Et j'ai l'impression, en fait, à la lecture de ton test,
c'est un jeu d'action, mais c'est pas un cover TPS, c'est ça en fait qu'il faut se dire.
Ouais. Mais alors dans ton test tu prends des pincettes en expliquant si vous attendez un jeu machin, mais en général les gens ils doivent savoir à quoi s'attendre avec
un
jeu
Remedy. Oui.
Ouais. Et alors donc question, Quid, tu parles de jeu de narration, si on le compare à les cadors du genre, j'ai envie de te dire
à Street Fighter 5,
Street Fighter 5 oui, et puis Dead or Alive Paradise. À un Heavy Rain ou un Until Dawn ou même un visual novel.
Je le comparais.
Attends, quand même pas.
Il y a quand même plus d'action.
Ouais, mais
en fait,
au niveau
je le comparais
de la narration,
à des jeux
c'est aussi puissant que ça, quoi. Déjà au niveau des choix, oui, j'ai l'impression.
Alors, moi, je le comparerais plutôt à des jeux d'aventure narratif.
À Uncharted ou pas.
Tu sais où il y a beaucoup de marches et où tu vois un objet, tu le prends et ah, tiens, il y a une note. Non, pas The Order.
Alan Wake.
Il y a une note et du coup, t'apprends des choses sur un personnage que t'as peut-être pas forcément vu, mais qui va peut-être avoir une importance dans la série live action ou peut-être sur la suite ou peut-être sur d'autres personnes, des échanges de mails, des notes, des éléments de radio qui te disent tiens, il se passe tant.
Des thermos de café.
Donc il vaut mieux tout ramasser.
172 thermos de café.
Il vaut mieux tout ramasser. Ce que tu ne peux pas faire en une partie, puisque tes choix justement à la fin dans une jonction, et ben ça va faire que des éléments seront bloqués et il faudra y retourner. Toujours est-il que donc la partie action est très bonne mais juste très bonne, c'est-à-dire que ils auraient pu pousser encore un tout petit peu, ils auraient pu aussi se permettre qu'un personnage qui a des pouvoirs qui sont quand même vachement bien, je veux dire tu peux créer des bulles d'arrêt de temps sur lesquelles tu tires et une fois que la bulle se crève toutes les balles foncent en même temps sur leur cible et du coup tu crées des espèces de déflagrations totalement improbables. T'as des pouvoirs pour speeder d'un seul coup vers quelqu'un, ce qui peut d'ailleurs le décontenancer. Il n'y a pas d'attaque de mêlée dans le jeu, il n'y a pas de bourrinage. Voilà.
Mais il y a un moment dans les vidéos où on voit qu'il arrache l'espèce de sac à dos qu'on sert.
Alors,
avec
ça c'est un pouvoir qui permet de courir normalement pendant que le reste est figé.
Non mais on le voit, il arrache, il a un coup de pied et tout.
Donc tu fais ça et quand tu arrives à côté de quelqu'un, tu appuies sur le bouton d'action, qui est donc B si je ne m'abuse, et là tu peux le faire automatiquement. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs. Il n'y a pas d'attaque de mêlée, mais tu as des petites composantes comme ça qui viennent s'intégrer. Et l'idée, en fait, c'est surtout que c'est un jeu qui est ultra nerveux. Comme je vous disais, c'est pas un cover TPS. Il y a une composante de couverture, mais elle est automatisée. Donc du coup, t'as pas à t'embêter à vouloir appuyer sur A, à passer par-dessus l'obstacle, etc. Non, vraiment, le but, c'est d'aller le plus vite possible et de profiter au maximum de tes pouvoirs pour défoncer ce qui se passe autour de toi. Et c'est très bien fait de ce côté-là, mais... ça manque de... ça me fait comme Alan Wake en fait. Ça manque de comment dire, de moments où t'as envie qu'il y en ait un petit peu plus et que ce soit un peu plus varié. Mais contrairement à Alan Wake, qui lui avait une scène Alors, j'arrêterai jamais de citer cette scène, mais pour moi, c'est vraiment la meilleure qu'ils aient faite.
La scène what the fuck.
La scène du concert,
ouais.
Qui est la meilleure scène qu'ils aient jamais faite. Bah, ça manque de ça. Et ça manque de boss, en fait. Le dernier combat, par exemple, il est expédié, mais en une minute.
En deux.
Et c'est. C'est
peut-être parce que t'es un génie aussi.
Non, franchement, ça va super vite.
Non, ça sort.
Et c'est. Bah, je vais pas dire que c'est honteux, mais c'est presque. C'est presque abusé, quoi. Parce que tu te dis, ah bah voilà, enfin. Enfin, un combat d'ampleur.
Mais
et
on te
ça
dit
dure.
Que c'est pas un jeu d'action.
Oui, mais
voilà, c'est
mine
tout.
De rien, pour les personnes
c'est
qui aiment
composante
l'action.
Du jeu quand même très,
voilà.
Très nette.
C'est une composante
quoi.
Importante parce que le spectacle vient de là et t'as envie qu'il y ait un peu de spectacle aussi, manette en main, par moment. Alors t'as des petits boss, hein, t'as des petits ennemis qui sont un peu plus costauds ou que tu dois uniquement viser en étant derrière eux parce qu'ils ont leur dispositif anti-manipulation du temps dans le dos. Mais bon, de ce côté-là, ça aurait pu être poussé encore un tout petit peu plus. Par contre, du côté exploration, narration. Je pioche à droite à gauche pour avoir des éléments d'histoire. De ce côté-là, c'est absolument parfait. Je trouve même que c'est au niveau rythme un peu mieux encore que pour Alan Wake, où des fois on peut se retrouver à marcher pendant mais des plombes
Alan
et
Wake,
des plombes.
Lent, hein. C'est lent.
Ça pouvait être très très lent. Là, là non, ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus condensé. Et puis bon, je vais finir avec les deux éléments qui, je pense, ont mis tout le monde d'accord au moins à la rédaction. D'abord le sound design qui est extraordinaire. On a vraiment l'impression d'y être quand
toute l'esthétique et la technique d'une manière générale.
Voilà, c'est de ce côté-là.
Hein,
voilà, le son d'abord parce que j'ai envie de finir ensuite sur l'esthétique et l'artistique. Mais le son est super bien rendu. Il y a une spatialisation qui est parfaite.
Et puis les effets spéciaux sonores aussi.
Les moments de fracture de temps, voilà, de cassure de temps sont super bien rendus. Les moments où tout est figé et que vous arrivez à côté de quelqu'un. Et du coup, vous avez l'impression que la personne parle au ralenti, ça fait un petit peu « Et voilà la soupe faite !» Vous voyez que ça fait ça
alors
avec plein de persos.
Voilà ouais.
Par contre, c'est toujours un peu sombre comme ça, un peu...
Non,
il y a des niveaux.
Oui, non, c'est autre chose. Puis il y a des moments, comme vous pouvez le voir d'ailleurs si vous êtes premium, où vous allez vous retrouver avec ce passage en particulier où... Il y a plusieurs années en fait qui défilent d'un seul coup.
Ça,
donc,
c'est bien, ça.
Tous
c'est
les
bien.
Éléments arrivent au fur et à mesure comme
ah,
ça.
C'est plusieurs années là.
C'est plusieurs années
c'est super cinématographique,
de montage en fait d'un complexe par le frère de Jack et ça défile comme ça sous tes yeux.
Ah, ils m'en avaient parlé, les développeurs de cette scène, ils en étaient très fiers.
Ah, ben ils peuvent en être très fiers parce que c'est le rendu est extraordinaire. Et donc visuellement, il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps. À propos du filtre cinématographique qui plaît pas à tout le monde, à propos des petits effets de flou, de moiré autour des personnages qui sont en mouvement, à propos du 720p. Peut-être qu'il est en 720p, alors honnêtement, on n'a pas les outils nous pour vérifier ça, mais toujours est-il.
Ah non, mais il l'est, hein, ça a été dit par Remedy. Ils disent en fait, la base est, tu sais qu'on peut upscaler n'importe quoi,
sûr,
etc.
Ouais.
Donc, la base est 720p. Sur certains éléments c'est remanié en 1080p sauf certaines choses genre les ombres, les lumières, machin, etc. Et les personnages en l'occurrence, c'est pour ça qu'il y a l'effet de moiré autour d'eux. C'est parce que c'est une technique qui s'appelle je sais plus comment et qui
capture
sur la frame actuelle mais les
4 frames suivantes.
Les 4 frames précédentes
pardon.
Voilà.
Parce que sur Dirt Rally sur Xbox One, ils ont fait la même technique.
Voilà, et c'est une technique qui fonctionne extrêmement bien à tel point que nous je veux dire, à la rédac, on n'a pas des yeux bioniques, mais quand un jeu est soit en 720, soit en 1080,
en général,
il y a toujours quelqu'un ici pour le dire, le voir.
Ça se voit vite, vite en plus.
Et là, tout le monde était bluffé.
Nickel, hein. Franchement, c'est
point
nickel.
Final. Point final. Ce jeu est magnifique. Et puis, à bout d'un moment, putain, les débats de branlette là sur. Il y a marqué.
Tout de suite,
non, mais c'est marqué 7-2-0 ou 10-80, et d'un seul coup, le
monde
s'écroule.
Vous voyez, le résultat, si vous êtes premium, vous le voyez là tout de suite. C'est des effets de lumière qui déglinguent, des graphismes franchement très bien faits, avec des décors. Peut-être un peu alors certains regrettent que les décors soient un peu trop urbains et pas très originaux, mais en attendant c'est super bien foutu
urbain.
Et puis surtout des effets spéciaux.
Attends, il a synchro labial, c'est magnifique.
Ah oui,
et les visages,
c'est jamais vu quoi.
Les visages de manière générale,
les visages, expressions faciales, les synchro labiales de ouf,
ça, c'est un truc,
mais surtout les effets visuels qui sont liés justement au temps qui est complètement figé, qui est paralysé.
Bah là, notamment ce passage là où t'entends aussi les effets sonores, t'entends un peu genre la dernière phrase qui a été prononcée par la personne avant d'être figée dans le temps, qui continue un peu comme ça là.
Et
quand il les sauve, il les fait sortir de ça et la phrase continue quoi.
Et ces pouvoirs de déflagration là qui cassent un petit peu justement l'image autour du personnage ou carrément devant lui, enfin bon, artistiquement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. D'un point de vue narratif, c'est pareil. Le fait que la série s'imbrique parfaitement dans le truc, en plus, la mise en scène est très bonne, l'écriture est très très bonne. Ça manque pas de surprises, hein, franchement, et ça manque pas de moments où vous allez avoir le cœur un petit peu fendu aussi. Bref, moi, enfin, de mon côté, en tout cas, je trouve que c'est un excellent jeu. Il a quelques problèmes, évidemment, des temps de chargement qui sont relous, notamment quand vous mourrez. Vous allez vous retrouver avec un checkpoint qui est avant une cinématique, et des fois il faut vous la retaper. Et si vous voulez pas vous la retaper,
ou un passage de marche,
et que vous
un
zappez,
passage de marche forcé.
Ça c'est chiant ça.
Et si vous zappez la cinématique, vous allez peut-être vous retaper un loading aussi. Donc des fois, enfin, des fois ils ont fait des choix qui étaient pas très astucieux hein, de ce côté-là. Mais pour le reste, franchement, à part peut-être qu'il est un peu facile, mais encore une fois c'est sûrement voulu parce que comme je le dis,
Alan Wake était assez facile aussi.
Voilà, comme je le dis, c'est surtout un jeu d'aventure narratif avec des éléments d'action. L'idée c'est vraiment de découvrir quelque chose. Pour moi c'est une série Netflix quoi. C'est un truc que vous allez vous faire un week-end et que vous allez adorer, que vous allez voir.
C'est un peu long quand même pour
7-10 heures.
7 à 10 heures,
ouais, 7 10 heures environ, et vous allez avoir envie de retrouver tous les éléments.
Ça sent le DLC
narratif.
Ou pas
ouais, c'est ce que j'allais dire.
Alors, avec la fin en DLC, je crois que c'est un scandale ça.
Non, pas du tout.
Moi j'avais pas du tout la première fin.
C'est pas la fin en DLC.
C'est la fin du monde.
C'est pas du tout la fin. D'abord, t'avais un DLC qui était déjà filé avec le jeu. Et en plus, c'est plus que la fin.
C'est quoi, c'est lequel? C'est The Signal ou The Writer qui était avec
The Signal et The Writer en deuxième, je crois.
Voilà, donc The Signal, il était vendu avec, et The Writer, il était vendu séparément, lui.
D'accord.
Mais ils étaient géniaux, ces DLC. Géniaux.
Bah ouais, mais ils faisaient pas avancer le schmilblick, hein.
Mais non, mais.
Entre nous.
Non, mais.
Si, moi, ce que je veux, c'est la suite, là. Je m'en fous maintenant.
Ouais, mais t'auras jamais une réponse claire.
Je m'en fous, je veux la suite maintenant.
C'est inspiré de Stephen King.
C'est quoi, American. American Nightmare?
Nightmare.
Je n'en veux pas, moi je veux une suite.
T'y
à
joué, Alan Wake.
Oui, j'y ai joué, j'ai détesté. Pour moi, il n'y a pas une histoire de scoring dans Alan Wake. Pour moi, c'est une hérésie.
Oui, mais ça a été assez.
Une hérésie, je te dis.
Ça a été intelligemment fait.
Oui, bon, après,
surtout
je sais
qu'il y avait des clins d'œil intéressants pour ceux qui avaient aimé la série.
Ah enfin, bah
la
alors série, là, le tu veux des clins d'œil à Alan Wake?
Ouais.
Joue à Quantum Break.
Ah ouais,
c'est vrai.
Je vais y jouer.
Ah bah là,
je vais y jouer, mais moi, il y a un. Je sais pas, enfin, je suis impatient de savoir si je suis d'accord avec toi. Parce que toi, du coup, pour tous ces petits défauts. Finalement, au final, tu lui mets la note de 4,
4 indispensable,
parce
évidemment.
Que bon, quand t'as une Xbox One, comment passer à côté.
Franchement, il était d'un côté, en le mûrissant, il était pas loin du 3,5, parce que les défauts, par moments, m'ont un petit peu saoulé. Mais par d'autres moments, je me dis,
qu'est-ce que c'est bien.
L'histoire, la façon dont c'est fait, cette fin, en plus, la fin est totalement ouverte.
Mais tu juges qu'Alan Wake, Alan Wake est totalement culte.
Oui, je trouve qu'Alan Wake est meilleur dans sa globalité. Mais il faut dire que Alan Wake a peut-être pris moins de risques aussi que Quantum Break. Je pense que Quantum Break a tenté d'autres paris. Il a pris des parties pris peut-être un peu plus qui vont plus diviser que pour Alan Wake encore. Mais je préfère Alan Wake de manière générale.
Et si tu devais le comparer à un autre jeu narratif avec des voyages dans le temps, Life is Strange.
Oui, bah.
Non, mais Life is Strange, c'est beaucoup plus narratif.
Ouais, mais là, c'est
beaucoup moins d'action.
C'est très narratif aussi. Hein.
C'est beaucoup moins action, quoi.
Ouais, mais les phases d'action, elles enrobent le reste, quoi, c'est tout. Ouais. Bah, tu marches beaucoup, mais pas trop. Mm-hmm. Tu trouves des petits éléments, comme je disais, et tu te renseignes, et tu t'imprègnes. Tu découvres des mecs qui veulent te. Enfin, un mec de chez Monarch, par exemple, qui a un scénar qu'il essaye d'écrire depuis le début et qui veut vendre, qui est fantastique. D'autres personnages encore que tu connais pas, que tu vas voir juste à l'écrit et auxquels tu vas t'attacher. Franchement, de ce côté-là, c'est très très réussi. Voilà. Et bon. Je pense que vraiment, que ce soit sur PC ou sur Xbox One, il faut y jouer pour voir au moins la prouesse qu'ils ont réussi entre dans le fait d'intégrer du live action avec du jeu vidéo, parce que c'est une première et que c'est ultra bien fait à ce niveau-là en tout cas. Voilà, c'est tout.
Ah bah j'y jouerai.
Bah merci beaucoup.
Je suis impatient de pouvoir en parler.
Pas mal,
plus.
Ouais, t'as mis 0, tiens.
Mais je trouve que tu m'as un peu spoilé au début, mais bon, c'est pas grave.
C'est vrai. Bah attends, je peux spoiler la fin
aussi,
si tu veux.
Aussi,
non.
Mais
t'as déjà spoilé la fin.
Alors
fait.
À la fin, en fait, il dit c'est pas un lac, c'est un océan. Voilà. Si c'est ça que tu veux savoir.
Ah, mais c'était un autre spoil ça.
Tu m'as un peu spoilé la fin quand même.
C'était un pic, c'est un cap, c'est une péninsule.
Non, j'ai juste dit que c'était ouvert, attention. Bref, maintenant qu'on a fini de parler de Quantum Break,
on va parler de la fin du monde.
Non, on va pas parler de la fin du monde parce que, comme chaque semaine, vous le savez, eh bien, la rédaction aime parler d'autre chose que de jeux vidéo parce qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Nous allons parler de nos hors-jeux hebdomadaires et nous allons commencer, eh bien, avec toi, Traz.
C'est vrai.
Tu vas nous parler d'une série, dis donc, une série animée.
Série animée, ouais, c'est pour les enfants, mais en fait pas trop. Mais en fait, si quand même.
T'es un grand enfant.
Bah toujours.
Comment ça s'appelle?
Un grand enfant, ça s'appelle.
Comment que ça s'appelle?
Regular Show. Ah. Regular Show. Voilà, ça passe sur Cartoon Network, comme vous pouvez le voir à l'écran pour ceux qui peuvent regarder la vidéo. Donc en fait, c'est l'histoire de plusieurs personnages super bizarres. Donc on a Benson, lui là, c'est le patron, c'est un truc à bonbons là, comment on appelle ça,
une confiserie,
un distributeur de bonbons. Voilà, c'est le big boss d'un parc.
D'accord.
Où bossent deux énergumènes, Rigby, le raton laveur, et le jet bleu qu'ils appellent Mordecai. J'adore ce nom, je crois que je vais me rebaptiser Mordecai d'ailleurs.
Ok.
Je trouve ça trop puissant. Donc il y a plusieurs autres personnages, il y a Monsieur Muscle, le mec tout vert, une espèce de Hulk qui casse tout sur son passage et qui est un vrai bourrin. T'as un autre, c'est un Yeti, c'est Skips, et t'as un autre gars avec une grosse tête qui s'appelle Pops.
D'accord, mais il
s'y
passe, quoi du coup?
C'est quoi,
des histoires toujours surnaturelles, complètement débiles. C'est une espèce de, je sais pas, de South Park mélangé aux Simpsons. Et il se passe toujours des histoires à la con. En fait, à chaque épisode quasiment, c'est le thème récurrent qui est toujours là, c'est forcément s'il est récurrent, c'est que Mordecai et Rigby, donc c'est quand même les deux personnages principaux, ils font tout pour jamais bosser, quoi. Je veux dire, c'est des tirs au flanc.
Ah, ça me rappelle quelqu'un là.
Et Benson n'arrête pas de leur gueuler dessus avec son fameux si vous faites pas ça, vous êtes viré, qu'ils ont repris, j'imagine, de
Donald Trump.
De Donald Trump, ouais, qui a fait son émission de télé-réalité. Et puis tout le monde.
Reprise avec succès par Bruno Monel d'ailleurs.
Ah, c'est vrai, ouais, exactement. Ouais. Voilà, exactement. Et donc il y a plein de références à plein de séries, l'autre fois je regardais, c'était une référence à Kaiser Soze du film
Kaiser Soze.
Et pourtant voilà, on se dit que c'est quand même pour les gamins. Mon gamin il adore, il a 7 ans. Et
les enfants peuvent regarder?
Bah oui, franchement, on peut regarder.
C'est comme Bob l'éponge, il y a plusieurs.
Mon gamin il a 7 ans, il a pas 3 ans.
Il y a plusieurs niveaux de lecture dans la série.
Oui, exact, c'est exactement ça. Il y a des références qu'il connaîtra pas, évidemment, comme Kaiser Soze, forcément.
C'est le moment où ton môme est à côté de toi, tu te mets à te marrer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas te.
Ma copine elle comprend pas pourquoi on trouve ça rigolo, mais bon, à chaque fois qu'on regarde, nous on est mort de rire. Bref.
Mais ça, c'est les femmes, ça. Pardon, excusez-moi.
Non, mais cette série... Elles sont bonnes qu'à aller en vacances et à mettre des maillots de bain, de toute façon.
Exactement, à jouer au volet,
Non, ce qui est génial, c'est
faire des bastons de cul. Voilà.
Dans quasiment 99% des épisodes que j'ai vus, il y a toujours un truc surnaturel qui arrive.
Genre là, il y a un ours qui tombe sur quelqu'un et qui joue du xylophone.
Ça, c'est pas surnaturel. Quand je dis surnaturel, c'est par exemple un grand trou qui s'ouvre et hop, ils s'engouffrent à l'intérieur ou ils prennent une bagnole et tout d'un coup, ils décollent et ils passent dans l'espace-temps et ils se retrouvent à l'autre bout de l'univers. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est complètement absurde.
D'accord.
Mais c'est franchement à mourir de rire.
Et ça passe.
Oh, c'est dégueulasse.
Ça passe où, quand et comment sur Cartoon Network?
Cartoon Network tous les soirs vers 20h, un truc comme ça. Et tous les samedis 11h et dimanche matin.
On va se grouiller alors parce que c'est bientôt.
Et tous les samedis 11h et dimanche matin 11h, il y a des épisodes inédits en ce moment. C'est une série qui existe depuis 2010. Je sais pas depuis combien de temps elle est sur Cartoon Network en France, mais
du coup, on peut pas la regarder sur un truc en replay.
Si, sur Cartoon Network, j'imagine qu'ils ont un replay. Donc...
Ouais, d'accord, mais si on veut regarder depuis le début, c'est.
Toi, tu penses encore à Netflix?
Bah, t'inquiète pas, j'ai cherché des épisodes en DVD, mais il y a qu'en américain.
Version US, sous-titré anglais.
Ouais, c'est ça.
T'apprends à parler à ton fils comme ça.
Oui, certes, mais bon,
ça arrivera bien un jour.
Mais j'espère bien, oui, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup et c'est à mourir.
Je crois que j'ai même pas Cartoon Network.
C'est vrai. Bah, tu veux nous parler un peu de notre truc Netflix encore pour changer, parce que Netflix, on vous aime énormément ici, on n'arrête pas de parler de vous tout le temps, on a des séries qui viennent de chez vous, on les regarde tous en un week-end chacun,
ou pas.
On les binge-watch.
J'arrive pas à trop binge-watcher moi.
C'est vrai?
Bah non, j'ai pas Netflix, ça leur fait pas chier.
C'est bizarre,
c'est compliqué.
Alors tu veux nous parler de quoi?
Je vais vous parler de Daredevil saison 2, qui est désormais disponible depuis quelques semaines. Alors, moi j'avais apprécié la première saison de Daredevil. Mais je la trouvais un peu trop gnangnan.
Ah, moi c'est la fin que j'ai trouvé gnangnan. C'est le seul moment.
Mais tout est gnangnan dans la première saison de Daredevil. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont gentils et tout. Et de temps en temps, ils essayaient de faire des trucs un peu dark pour être proche du personnage initial, tu vois, du comics. Un peu plus dark, un peu plus violent et tout.
Tu trouves que le combat qu'il fait contre le ninja japonais là, avec son espèce de faux
au bout d'une chaîne,
tu trouves que ça c'est pas dark par exemple?
Si, ouais. Ça fait partie des seuls moments un peu fulgurance de violence ou de dark. Et sinon tout le reste c'est toujours gna 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 avec leur cabinet d'avocats, etc. Bref, comme s'il y avait un curseur comme ça et qu'ils avaient voulu absolument rester au milieu tout le temps. Et ce que j'apprécie dans la saison 2, c'est qu'ils ont très clairement fait basculer le curseur du côté un peu plus dark, un peu plus
du
violent.
Côté obscur.
Ça, ça vraiment j'apprécie. Alors, bah, ce qui est génial, c'est qu'en
c'est
plus,
c'est ce qu'ils ont fait avec Jessica. Merde, c'est
Jessica Jones.
Jessica Jones, qui était incroyable.
J'ai adoré Jessica Jones. Et d'ailleurs, il y a des références. Il y avait dans Jessica Jones des références à la première saison de Daredevil. Mm. Dans Daredevil saison 2, il y a des références à la première saison de Jessica Jones.
De toute façon, tout va s'entrechoquer dans pas
bien
très
sûr.
Longtemps.
Et alors, ce qui s'entrechoque aussi, c'est qu'en plus, dans cette deuxième saison, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas seulement Daredevil, on a deux autres super-héros qui arrivent au casting. Mm-hmm. C'est The Punisher et...
qui est joué par John Bernthal, que vous avez vu dans The Walking Dead, notamment.
Exactement, Shane. Ouais, qui joue
le salaud de service.
Qui ressemble d'ailleurs pas trop finalement au personnage du comics. Moi j'avais lu les comics de Walking Dead.
Il n'a pas le nez cassé comme ça.
C'est notre histoire.
Frank Castle, c'est sûr.
Si, il a un bras en moins.
Donc il y a le Punisher et il y a également Elektra.
Qui est une Française.
Qui est une Française.
Ah, c'est un normal, c'est plus Jennifer, ouais, ouais. Comment elle s'appelle?
C'est pas Jennifer Garner.
Ah non,
mais
elle est pas française.
Elle a des arguments.
Elle est très jolie, elle est très mignonne.
Elle est très très belle cette femme.
Et elle a une relation assez sympa avec Daredevil. Donc,
qui
franchement...
lui est joué par Jean Dujardin, vous regarderez bien.
c'est Jean Dujardin aveugle. Ouais. Non, franchement, ça s'est vraiment bonifié cette saison 2 par rapport à la première. Et je l'apprécie beaucoup. Je l'ai pas encore terminé parce que je peux pas binge-watcher en un week-end comme tu le disais tout à l'heure. Mais j'en suis pas loin. Et plus j'avance, plus je l'apprécie, je la recommande très chaudement.
C'est vrai.
À
tu
tous
payes
ceux
l'abonnement
qui,
Netflix, moi je la regarde.
Bah c'est 9,90€ si tu veux regarder en HD. Hein.
T'as un mois gratuit si tu t'es pas encore abonné.
Ouais, exactement. C'est trop con.
On a moi, t'as largement le temps de regarder. Regarder Jessica Jones, ça j'avais déjà fait un enjeu, je crois, sur Jessica Jones.
Ouais, il a déjà été fait par Romain, mais t'as voulu le glisser, mais je t'ai pas laissé.
Ah, tu m'as pas laissé. Pardon. Bah donc voilà, ça fait. Si tu regardes Daredevil saison 1, Jessica Jones saison 1, puis Daredevil saison 2, franchement, il y a tout un univers qui se bonifie peu à peu et que
c'est vrai.
Qu'on voit
comment s'appelle l'univers Marvel,
le Marvel Cinematic Universe,
MCU, voilà.
MCU,
exactement. Mm-hmm.
Mais voilà. Cela dit, Daredevil c'est très différent des autres héros Marvel, je trouve. Mm. C'est un peu comme Batman, c'est un super héros qui a pas vraiment de super pouvoir. Enfin,
bah si.
Si. Non, mais ce que je veux dire, c'est il est aveugle, et il peut voir, donc il devient quelqu'un de normal.
Ça va, c'est pas terrible.
Bah, le seul truc qu'il a, du coup, par rapport à un mec qui peut voir, c'est qu'il sait se bastonner.
Voilà.
Et en fait, c'est un mec qui bastonne.
Et ça, c'est balèze.
Il refuse de tuer, mais il bastonne, mais sévère, quoi.
Ouais.
Il fout des coups de poing à la gueule.
Il y a encore une séquence de combat en plan séquence dans cette saison, pour l'instant, ou pas?
Ouais, mais c'est quand même contre du Swift que tu peux.
Très bonne question.
Parce que dans le premier, il y en avait une qui était pas mal, hein, qui durait 5-6 minutes, je crois, si je me rappelle, qui était vraiment très très bien tournée. Et je me demande s'ils ont réédité l'exploit avec celle-ci.
Écoute, là où j'en suis, je te dirais non, mais peut-être que je me gourre et que j'ai un plan séquence est passé devant mes yeux sans que je me rende compte que c'en était un.
Est-ce qu'on revoit Rosario Dawson, tiens?
Oh non.
Alors c'est qui Rosario Dawson?
C'est l'infirmière dans le premier.
Bien sûr.
Ah merci.
J'ai eu peur. Vous êtes mûr pour jouer à des rôles avec Extreme
Machin. Et quand je te parlais, non, super actrice d'ailleurs. Et
j'adore cette actrice.
Et d'ailleurs les clins d'œil passent par elle parce que comme tu sais,
elle est dans
Jessica Jones.
Voilà. Absolument.
Très et donc elle parle de ce grand costaud.
Ah Luke Cage.
Voilà, dans Daredevil saison 2.
Très bien. Bon bah en tout cas moi j'attends de finir House of Cards saison 2 pour pouvoir m'y mettre, ça va pas tarder.
Et les scènes de baston sont très bien, hein, toujours.
C'est vrai.
Mais le chorégraphe des scènes de baston est très connu
et le Punisher est vraiment cool.
C'est vrai.
Ouais. Punit vraiment.
Moi j'aime bien cet acteur.
Il a une gueule de méchant un peu.
Punir. Bah tu sais c'est un peu c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un super-héros dans le sens originel du terme.
Dans le sens noble, on va dire.
Dans le sens noble du terme.
Bon bah très bien, Julo, on va passer bah moi dis donc. Incroyable.
C'est à toi. Alors, quel est ton hors-jeu de la semaine?
Alors mon hors-jeu,
saison 3.
C'est un documentaire qui vient d'arriver au cinéma. Je sais pas s'il est encore en salle au moment où on en discute, mais il était sorti en 2013 partout dans le monde, mais nous en France, bon, on l'avait pas eu. Ça s'appelle Jodorowsky's Dune. En gros, c'est le Dune de Alejandro Jodorowsky, que vous connaissez sûrement comme étant un scénariste de BD. Archi reconnu dans le monde.
Quand on a dit son nom tout de suite, ça m'a.
Alors tu ne le connais pas, mais si je te parle de L'Incal par exemple.
Ah oui.
Alors L'Incal avec Moebius, c'est lui.
D'accord.
Les Métabarons,
c'est lui. Okay.
Le Grand Pouvoir du Schninkel, que vous connaissez peut-être pas, mais que j'ai lu très jeune,
c'est lui
aussi. Ce type. Donc c'est un
et qui a tué
un scénariste franco-chilien. Pamela
Rose.
C'est lui. Voilà. Le 11 septembre.
C'est lui.
Bref.
Putain, il est trop fort.
Alejandro Jodorowsky, qui est un franco-chilien complètement cinglé dans sa tête,
c'est vrai.
A voulu à un moment après
en
avoir
général,
fait des...
c'est dans la tête qu'on est cinglé.
On peut être cinglé ailleurs. Hein.
Bref, j'ai connu un mec cinglé du pied. Franchement,
il est déchiré au foot.
Et donc, il a fait des films un petit peu
porno,
un petit peu barrés dans les années 60-70. Et il s'est dit un jour avec Michel Sédoux. Je crois que tu sais qui est Michel Sédoux, n'est-ce pas, Julo?
Michel Sédoux.
Bien sûr.
Tu sais qui est Michel Sédoux ou pas?
C'est un acteur.
C'est le président du LOSC aujourd'hui, qui est aussi un producteur de, et avant tout un producteur de cinéma.
Ah, j'étais un acteur, j'étais pas.
Exactement.
Je l'avais pas.
Ah, si, bien sûr.
Tu vois, tu
et donc, il est, ils se sont vus un jour, et Michel Sédoux lui a dit, écoute. Il avait importé ses films un peu barrés auparavant, des films complètement, vraiment complètement starbés. Et il lui a dit, écoute, je veux bien te financer ton prochain film, dis-moi ce que tu veux. Et Jodorowsky lui a dit comme réflexe, Dune, un bouquin qu'il n'avait même pas lu au passage.
Ah ouais ?
Absolument.
Bah,
et donc il a dit, voilà, je veux adapter ça au cinéma. Et donc il raconte dans ce documentaire la façon dont il va essayer de monter un projet qui ne verra jamais le jour. Et à la fin du documentaire, on se dit, bah heureusement qu'il a jamais vu le jour, mais
parce
pas
que, parce que ça aurait été pourri.
Non,
parce
justement,
ça aurait été impossible à faire, c'est ça?
Pas justement, pas parce que ça aurait été pourri, mais parce que en fait, de ce projet qui n'a jamais existé, eh bien, sont nés d'autres trucs qui sont aujourd'hui cultes. C'est-à-dire que si Dune, tel qu'il l'a vu, tel qu'il l'a souhaité, et qui
c'était largement après la sortie du film Dune qu'on connaît.
Ah bah
tous.
Oui.
Ah bah oui. Non, c'était largement avant.
Il voulait refaire un.
Non,
c'était
dans,
avant
en 75. Si je.
Ah, c'est avant Dune.
Début des années 70.
Donc lui, c'était avant le vrai Dune.
Le vrai Dune. Exagère pas. Le film de Lynch est pourri. Ouais, et d'ailleurs, il en parle à l'intérieur. Et quand il l'a vu,
juste un tout petit
peu. C'est assez savoureux la façon dont il parle du film de Dune, parce que.
D'accord.
Il le dit. Il le dit. Il s'est marré. Il avait peur d'aller le voir. Et en fait, il s'est marré, il a dit putain, c'est une merde. Et voilà, il était très content du coup
que son projet
ait été avorté. Mais bref, c'est un projet complètement fou dans lequel aurait pu être Mick Jagger, Orson Welles, Dali, Amanda Lear, et j'en passe.
Quoi?
Et des autres. Oui, absolument.
T'as Sting quand même dans.
Comment?
C'est Sting qui est dans le.
Dans celui de Lynch.
Pas de s'arrêter la classe américaine. Quoi,
voilà,
c'est ça,
la musique aurait dû être faite. aurait dû être faite par Pink Floyd.
Il avait
aussi donc débauché Giger, qui est quand même le
mec qui a fait Alien.
Le mec qui a fait Alien. Il avait débauché.
Enfin, qui a fait le personnage. Enfin,
l'Alien, le xénomorphe, quoi. Ouais. Il avait débauché aussi Chris Foss, qui est un illustrateur de SF qui est ultra connu aussi. Il a débauché tous ces gens-là. Et au final,
il a voulu
les débaucher, et ça a failli marcher. Dali, par exemple,
il a fait les démarches et tout.
Les a rencontrés. À chaque fois, il y a des anecdotes de ouf.
D'accord.
Et Dali, par exemple, la raison pour laquelle Dali aurait accepté, c'était qu'il allait être payé
à rien foutre.
$100,000 à la seconde, parce que Dali voulait juste être l'acteur le mieux payé de tous les temps. Et il allait le faire. Il allait le faire parce qu'il allait trouver un moyen de s'arranger pour que Dali n'apparaisse pas trop à l'écran.
Oui, genre 5 secondes, quoi.
Exactement. Et donc, on apprend grâce à ça qu'à la fin, il y a un book donc, qui a été offert à toutes les majors américaines pour réaliser ce film, qui ont toutes dit non.
Ils sont tous flippés.
Non, on veut pas financer un truc comme ça. Et tu te rends compte à la fin que ce book, quand tu tournes les pages, tu vois que des films qui sont parus par la suite, ou même les Métabarons ou encore l'Incal, si ça avait marché pour ce Dune-là, ça n'existerait pas, tout bêtement.
Parce qu'il a récupéré
Alien,
tout le matériel.
Alien, tel qu'on le connaît, n'existerait pas. Parce que Giger avait déjà fait des dessins qui ressemblaient énormément pour ce projet-là. Prometheus, pareil. Il n'existerait sûrement pas. Énormément, mais alors vraiment énormément d'icônes de la pop culture aujourd'hui ont dû s'inspirer de ça. Parce qu'il avait fait une Dream Team et que cette Dream Team elle s'est éparpillée et qu'elle a fait d'autres choses de son côté à chaque fois. Et c'est
les
vraiment.
JO en 92, je crois, ils ont fait.
Aussi, ouais. Et l'album de Freddie Mercury et Montserrat Caballé, notamment, c'était ça. Toujours est-il que c'est vraiment un documentaire où vous allez vous marrer, mais vraiment comme des baleines, parce que Jodorowsky, déjà, est vraiment, mais alors vraiment complètement fou. Et la façon dont il décrit. La façon dont il voulait faire ce film est savoureuse. T'as l'impression que tu te prends un peu de LSD, quoi, quand tu regardes ce truc, tellement c'est complètement barré.
Ah bah justement, j'ai toujours rêvé de prendre du LSD.
Et tu te dis que sa vision était franchement pas mal, même si elle respectait pas trop l'univers de Frank Herbert. Au final, elle était ultra bien foutue. Donc voilà, je vous conseille de voir ce documentaire. Je sais pas si on peut le voir d'autre façon qu'au cinéma maintenant, sachant qu'il est sorti dans le monde entier. Ça se trouve, vous pouvez
peut-être
vous procurer
un DVD américain.
Ouais, ou en Blu-ray
pour apprendre à ton fils à parler anglais.
En Blu-ray ou en DVD sûrement, mais en tout cas il faut absolument le voir si vous êtes passionné par
par les fous,
par les mecs fous et par bah tout ce qu'on a découvert
dans leur tête.
Et il y avait Moebius hein, d'ailleurs aussi au passage, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais
ah ouais.
Moebius faisait partie du projet évidemment, mais plus tard ils ont fait
des dessins qui sont passés tout à l'heure qui m'ont fait penser aux Mondes Engloutis. Moebius, il avait participé aux Mondes Engloutis. Vous vous rappelez de ce dessin animé?
Ouais, bien sûr, j'aimais pas trop avec Zig et Zag.
J'adorais
ça.
Moi.
Ouais, non, j'aimais
c'est
pas.
Génial,
j'aimais
c'est
pas. J'avais été
Nadia,
dans une ambiance.
C'est ça
ouais, de quoi aussi,
hein. C'était les Mondes Engloutis, c'était avec en Nadia. Enfin, non.
Non, Nadia, le secret de l'oubli,
c'est
encore
c'est
autre chose.
Les Mondes Engloutis.
Ouais,
jusqu'au creux.
Non, moi Zig et Zag, ça me faisait pas marrer. Et puis.
De la terre.
Non, je crois que tu peux arrêter de chanter maintenant. Ben voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur mon hors-jeu de cette semaine.
Merci,
on va passer
au, revoir, monsieur.
Au dernier hors-jeu de la semaine et Johnny. Dis donc, ce serait pas encore un bouquin sur Star Wars dont tu veux nous parler. Tu veux parler de football, mais pourquoi donc? Qu'est-ce que c'est?
Donc, c'est en fait, j'avais parlé la dernière fois donc du livre sur l'encyclopédie illustrée de Star Wars.
Ouais.
Parce que aussi, c'est un autre bouquin qui s'appelle Tout l'art du réveil de la Force.
Ouais.
Donc, c'est un livre qui.
Là, on t'explique pourquoi ils ont fait ce sabre là avec les petits machins.
Pas vraiment. en fait, si un petit peu. C'est un livre.
C'est esthétique.
Il suit toute la création du film depuis ses débuts, c'est-à-dire au moment où ils ont commencé. A décidé, ça y est, c'est J.J. Abrams qui va le faire, c'est signé, c'est parti. Donc c'est un peu tous les concepts art qui ont été faits pour le film. Donc il y en a une masse incroyable qui n'a pas été retenue. Donc quand tu commences le bouquin, tu vois, par exemple, tu as... comment elle s'appelle, Daisy machin,
Daisy Ridley, Daisy machin, voilà. Vas-y un petit peu mollo là, on parle de Daisy Ridley là, du calme.
Donc tu as Ray avec Finn par exemple, et Finn c'est un petit blondinet quoi derrière. Il te parle aussi d'une certaine Dark Talon qui est en fait une Twi'lek toute rouge qui aurait pu
Twi'lek,
être
c'est ceux qui ont des espèces de queues sur la tête,
qui aurait pu être une Senior Sith dans le film. Et un des trucs donc t'as vraiment des évolutions du design. Par exemple, t'as aussi la création de BB-8. Donc BB-8 au départ c'est un post-it que J.J. Abrams, c'est un post-it jaune où il a dessiné deux petites boules quoi, et ils ont fait allez c'est parti, on va partir là-dessus. Et donc t'as tous les designs qu'ils ont fait jusqu'au final qu'ils ont retenu. T'as les Stormtroopers pareil, t'as pas mal de design, des qui sont ressemblent à des casques de chevaliers en mode Dark Souls, des trucs comme ça.
Ouais.
Et moi, ce qui m'a vraiment bluffé et ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce bouquin, c'est en fait t'as toute l'évolution de Kylo Ren. Qui au départ s'appelait le tueur de Sith.
Ouais, et c'est devenu un Terminal L juste à la fin. C'est ça qui est un peu, qui est un peu dramatique. Même si je l'aime bien quand
moi
même.
Je l'aime bien,
moi aussi j'aime bien Adam Driver. Je trouve qu'il a, il est pas mal.
Non, enfin voilà, donc t'as une quinzaine de designs abandonnés pour Kylo Ren, donc des qui tirent sur le Dark Vador, un genre, il y en a un qui me fait assez triper où c'est un Dark Vador en genre un peu mode communiste, enfin.
En mode communiste, c'est-à-dire.
Ouais,
il a le couteau entre les dents.
Non,
et...
il est non, un casque très allongé, tu sais, une allure très militaire, un petit peu verdâtre, avec quatre sabres.
C'est comme ça que tu vois un communiste
à la ceinture.
Oh, je crois. Oh, bon, dernière fois que j'ai vu Robert Rue, il ressemblait pas à ça. Hein.
4 sabres, c'est pas possible que ce soit communiste.
Non, mais voilà,
ils ont pensé à Robert Rue, je crois. Pour
très martial, quoi. Voilà.
D'accord.
Non, et ouais, donc c'est assez passionnant parce que au fur et à mesure que tu feuillettes les pages de ce bouquin, t'as énormément d'illustrations et donc t'as tous les concepts de ce qu'aurait pu être Star Wars 7. Voilà. Donc,
tu t'imagines qu'il y a une énorme réflexion qui a été opérée.
C'est limite un making-of en bouquin. Un making-of à base d'artwork.
D'accord.
Voilà. Et donc, bon, il coûte un peu cher, hein, il coûte 40 balles le bouquin. C'est
tu
plus
sais,
cher que
édition,
l'encyclopédie.
T'as l'édition.
Non, j'ai pas ça en tête. Ça coûte 40 euros, c'est un grand format.
D'accord.
Le bouquin, il doit faire, je sais pas, moi, bien 35 cm par 35. C'est assez costaud, il est lourd, il est
clair. Je vais essayer de retrouver
énormément de pages.
Continue à meubler. Ouais,
et voilà, donc c'est vraiment passionnant comme bouquin. Si vous êtes passionné de Star Wars.
Non, pas moi, me regarde pas, je déteste Star Wars. Malheureusement.
Moi j'adore Star Wars, je supporte pas.
Et franchement, faut vraiment jeter un œil dessus parce que.
Bien que tu me le prêtes.
Tu vas t'en prendre plein les
miettes. Tu vas en prendre plein la gueule, je te marche un jour.
Je vais te l'amener ici, puis tu vas le feuilleter.
Et tu vas kiffer.
Je vais te trouver l'éditeur dans vraiment pas longtemps.
Non, non, vraiment, jetez un œil sur ce bouquin si vous aimez Star Wars. Tout l'art de Star Wars, le réveil de la Force.
Tout l'art
de Star Wars. Voilà. Et donc c'est que des artoirs, qu'il y a pas de. Il n'y a pas vraiment de choses comme ça,
oui,
c'est surtout des dessins.
C'est chez Eugène et Menin.
Voilà. Donc il coûte un peu cher en France, là, en faisant des recherches là, tout à l'heure pour le podcast, je l'ai vu moins cher en version US. Bon, tu peux l'avoir en français, quoi, le bouquin. Donc voilà. Non, vraiment, vraiment génial.
Et donc la prochaine fois, tu nous parleras d'un autre bouquin de Star Wars. Sélectionne-le attentivement.
La cuisine dans Star Wars.
La cuisine.
Tu rigoles, mais j'ai ça.
C'est vrai. Des...
Ouais, mon frère m'a offert ça.
Ah oui, bouquin de cuisine, ils en ont vendu à la sortie de Star Wars.
Et en fait, tu sais, c'est des kits que tu peux acheter genre la Fnac à Noël et tout.
Mais c'est ça.
Et donc c'est un bouquin de cuisine où à côté tu as 4 sabres laser avec où tu peux faire des glaces à l'eau en fait dedans. Voilà. Ah. Donc tu peux faire tes petites.
Moi je voyais des muffins, enfin pas des muffins, mais des pancakes R2D2.
Ah oui, mais dans le bouquin de recettes, ils vont pas te faire un bouquin sur des recettes de glace à l'eau. Hein. Donc t'as des gâteaux Chewbacca, des trucs comme ça quoi. Sur le...
Mais dans Star Wars, ils vont jamais aux toilettes, ils mangent jamais, j'ai l'impression. Ouais,
dans ma préférence non plus. Hein. T'as déjà vu Jack Bauer aller chier un coup quoi.
Il y a une.
Voilà, moi non plus. Pourtant, 24 heures,
c'est fou quand même.
Sans déconner, il y a des études assez sérieuses. Enfin, des études.
Oui, mais moi ça m'intéresse parce que
il y a des trucs assez sérieux. En fait, tu vois, justement par rapport à la nourriture dans Star Wars, moi je suis pas allé les lire, c'est qu'on m'en a parlé.
Ils mangent pas, en fait ils mangent jamais, ils sont trop forts.
Les méchants mangent, les gentils boivent.
D'accord.
Tout ça, ça n'aide pas du tout ça.
En fait, c'est des plein de choses. Ils sont tellement énergétiques qu'ils ont plus besoin de
bouffer. Et moi je suis pas allé voir ça, donc on m'en a parlé, c'était dans le cours d'une soirée, donc je te rappelle.
Mais c'est pas vrai voilà. Parce que non, la princesse Leia dans le Retour du Jedi, elle mange avec les Ewoks là. Tu sais, les espèces de petites graines là, je sais pas quoi.
Manger une graine, super, ouais.
Non, il y a pas un truc comme ça.
Non, mais il y a plein de théories, je sais façon. Plus.
Mais voilà, il y a un gars qui s'est cassé le cul à observer ça, les aliments dans Star Wars. Et donc on peut aller voir ça sur le net, je pourrais pas vous donner l'adresse parce que. Voilà.
Mais des théories sur Star Wars, il y en a des milliers. Je vous conseille de regarder Chasing Amy de. Qui s'appelle comment ? Méprise multiple de Kevin Smith. Il y a au début une théorie de, je sais plus, je crois que c'est Chris. C'est Chris Rock ? Ouais, c'est Chris Rock qui parle du costume de Dark Vador et du fait que il est black à l'extérieur, mais en fait il est blanc à l'intérieur. Mais en fait, c'est parce qu'il veut être black. Enfin bon, c'est des trucs un peu rigolos comme ça qu'on peut retrouver un peu partout. Donc, ça coûte environ 40 euros. Ça s'appelle Tout l'art de Star Wars, le réveil de la force. Merci Johnny. Et puis merci Julo, merci Traz pour ces petits hors-jeux de cette semaine. Et puis maintenant, j'ai envie de dire merci pour ce podcast. Merci pour ce moment.
Merci pour ce moment. Ouais.
Merci Johnny. Merci Julo.
Merci à tous.
Merci Traz. Merci Poufi à la Sono pour ce nouveau podcast qui était très orienté jeux vidéo. La semaine prochaine, il y aura peut-être un thème. Je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que Final Fantasy XV pourrait bien revenir. Je ne suis pas encore sûr. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, évidemment. Suite à ce podcast, une fois que vous l'avez écouté, à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de chacun des sujets qui ont été développés. Ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous, mais pas trop fort. Ça se trouve, vous êtes d'accord, et là, il faut le dire, n'hésitez pas, franchement, criez-le. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao!
Ciao, ciao! Salut!